When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken. Et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Chaque matin, tu as le pouvoir de choisir ta vie, de te libérer du regard des autres et d'inventer ton métier. Ce n'est pas moi qui le dis, mais mon invitée du jour sur le podcast, Caroline Petit-Maison. Caroline est autodidacte, ne connaissait rien à la céramique, n'avait jamais managé et pourtant a créé un business rentable et à son image. Tout ça en ne doutant jamais de ses capacités, en restant ouverte sur le monde et en s'entourant parfaitement bien. Bien sûr, elle a connu des galères, des déconvenues, des angoisses immenses, des insomnies et des symptômes du burn-out, mais n'a jamais lâché. J'ai eu la chance de la rencontrer dans sa boutique rue des Saint-Pères à Paris pour une interview d'un peu plus d'une heure. Si vous entendez des bruits parasites, c'est normal, l'équipe était en plein travail. Elle nous raconte son amour pour le fait main, la façon dont ils conçoivent chaque pièce, Free Seven Paris, sa vision du travail et de l'entrepreneuriat, ses conseils pour réussir, les leçons qu'elle tire de toute son expérience, les aléas qu'elle a parfois dépassés avec une bonne dose de sang-froid. Si tu penses encore manquer de légitimité, si tu as besoin d'un shot d'inspiration en perspective de l'année à venir, cet épisode est à dévorer durant cet été. Si vous aimez notre échange, vous connaissez la chanson. 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify nous feraient énormément plaisir. Belle écoute. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Enchantée d'être avec toi aujourd'hui.
Ouais.
En plus, dans ce sublime lieu, on ressent un petit peu les énergies. Donc moi, je suis très énergie, donc j'adore.
Moi aussi, je suis assez énergie. Et on a ouvert notre boutique avec l'atelier il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et c'était hyper important pour moi justement d'avoir un endroit qui soit très apaisant. Il y a déjà naturellement la céramique et le décor de la céramique qui fait que ça, c'est assez reposant comme atmosphère. Ouais. Mais on a vraiment travaillé sur la lumière, etc. pour que ce soit un espace très, très doux.
Et on le ressent tout de suite quand on rentre dans le lieu, ce qui vous est accessible, les auditeurs aussi, puisque la boutique est à Paris.
Exactement, on est rue des Saint-Pères dans le 6e.
Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, Caroline, pour ceux
qui
ne te
connaissent
pas ?
Oui, alors je m'appelle Caroline, je suis la créatrice de la marque 37 Paris, que j'ai lancée il y a 5 ou 6 ans maintenant, je crois. Je viens d'avoir 40 ans, je suis maman de 2 enfants, Muse et Jack, qui viennent d'avoir 9 ans, et Jack qui va avoir 5 ans dans quelques jours, 6 ans. Qui va avoir 6 ans. et voilà, et donc j'ai commencé la marque il y a presque 6 ans, à la naissance de mon fils pratiquement. Et voilà.
C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'interview sur le podcast qui lancent leur marque au moment de la naissance de leur fils. Tu crois que toi, la maternité a vraiment joué pour un renouveau ?
Ah non, pas du tout.
Non ?
Non, en fait, moi, c'est vraiment... Alors déjà, en vrai, j'ai commencé la marque un an et demi avant que j'accouche de Jack. Donc, j'ai commencé la marque sans être enceinte. Non, alors moi, j'ai un rapport... j'ai adoré la maternité, moyennement être enceinte. J'ai préféré la deuxième grossesse que la première. Mais j'ai adoré avoir des enfants, etc. Mais moi, ça ne m'a pas changé viscéralement.
D'accord.
C'est-à-dire que je profite de tout, mais je ne suis pas devenue une maman, full maman.
Oui.
J'ai toujours travaillé à côté. Donc, ça ne m'a pas... j'ai pas du tout, moi, le côté de la maternité qui, tout d'un coup, m'a fait... ouais. envie de lancer une marque pour enfants ou une marque de céramique.
Ouais.
Moi, c'est un concours de circonstances qui m'a fait rentrer dans la céramique de manière complètement assez aberrante parce que rien n'était prévu. Mais ça a été très... je le mets pas du tout sur les temps de grossesse que j'ai eu, de jeunes enfants, etc.
D'accord. Bah
Et c'est marrant parce que j'y ai d'ailleurs jamais pensé avant que là, tu m'en parles.
C'est vrai?
Ouais. Non, ça avait vraiment, je crois, rien à voir avec, avec ça. Ça a vraiment été okay.
Ouais. Parce que ouais, parfois, il y a les priorités qui changent, l'envie d'être plus présent pour ses enfants, du coup.
Ouais. Mais alors, puis, je me dis que l'entrepreneuriat n'est pas forcément le bon truc ouais. dans lequel se lancer pour quand tu viens d'avoir des enfants ou quand tu prévois d'avoir des enfants. Parce que je pense que oui, d'extérieur, les gens pensent que bah, effectivement, on a la liberté de d'être notre propre boss, donc on s'organise comme on veut. Mais en vrai, on travaille beaucoup plus que dans n'importe quel autre domaine, sans doute, parce qu'on se fait vraiment des journées. Moi, je me fais des vraies journées de 12 heures tous les ouais. jours de ma vie. Et ça ne s'arrête jamais, en fait.
Ouais.
Donc, le week-end, et puis même si je ne dors pas de la nuit, parce que quand les enfants étaient petits, me réveiller toutes les deux heures, je ne peux pas dire, je suis désolée, je suis fatiguée, je ne peux pas faire mon travail aujourd'hui. Ouais. Donc, non, je ne recommande pas, justement, de commencer sa boîte quand on vient d'avoir des enfants ou ouais. quand on prévoit d'en avoir. Mauvais plan.
Carrément.
Sur la fatigue.
Carrément. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours, Caroline, avant justement Free Seven et plus précisément, je crois, Free Seven US?
Oui. Alors, on a eu. Alors, moi, j'ai fait plusieurs parcours, plusieurs cycles de vie, à chaque fois hyper enrichissant. Mais en fait, j'ai commencé. Moi, j'ai fait une maîtrise de sociaux
okay.
À Paris. Je suis partie vivre à Los Angeles à 22 ans. J'ai fait un an à UCLA. Et ensuite, j'ai rejoint une agence de com qui s'appelle TBWA Chayat Day à New York. Et j'étais au planning stratégique. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi, que j'ai adoré parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient clairement très brillants et des nanas qui étaient à peine plus vieilles que moi et beaucoup plus... que je voyais tellement plus intelligentes que moi parce que... Je sais pas, je crois qu'elles avaient une manière de travailler qui était très pragmatique, il y a un côté très américain, mais du coup c'est efficace. Et, ouais. Et voilà, je travaillais dans cette boîte qui était vraiment tenue par toute une équipe. Les filles avaient 25-26 ans, donc c'était une boîte très jeune et qui tenait que des énormes budgets américains avec des gros clients. Enfin, c'était vraiment fascinant. Ça a été très formateur parce que j'étais évidemment, sinon c'était pas drôle, avec une boss qui était redoutable.
Ouais.
Donc je suis allée pleurer plusieurs fois dans les toilettes en me cachant, mais elle n'a jamais rien su de tout ça. Et voilà, ça a été vraiment hyper intéressant. Et puis j'étais aux États-Unis, c'était New York, j'avais 23 ans à l'époque, enfin c'était assez incroyable. Et j'avais rencontré Jonas, qui est donc mon mari aujourd'hui et qui était mon petit copain avant d'arriver okay. d'être mon mari. J'ai rencontré le premier jour où je suis arrivée à UCLA aux États-Unis.
Okay.
Et lui est mannequin, photographe, donc il avait une vie complètement différente, alors que moi j'étais tout le temps sous la pression du bureau, des horaires. Comme je ne parlais pas suffisamment bien anglais, il a fallu que je travaille deux fois plus que les autres. Du coup, je suis arrivée... j'arrivais à 7h du matin au bureau, je repartais à 21h et je savais qu'il fallait que je travaille plus que les autres pour arriver au niveau. Et à côté de ça, j'avais ma sœur jumelle Alix qui est à la Markham Stone, qui voyageait partout, qui avait des agents pour sa marque, qui avait cette espèce de liberté dingue. Et mon petit ami avec qui je vivais, qui était photographe et mannequin et qui du coup travaillait beaucoup moins que moi. Enfin, c'est pas le fait qu'il travaillait moins, c'est que c'était une toute autre manière de travailler que oui. je connaissais pas, en fait.
Il avait plus de liberté, on va dire, de choisir ses horaires, de choisir
Exactement.
Ses contrats.
Exactement. Mmh. Et du coup, et puis quand il travaillait pas, il profitait de la vie, etc. Ouais. Alors que moi, dans ma journée, s'il fallait en plus qu'on me demande de poster une lettre, je pense que je faisais un petit burn-out. Tellement je me sentais déjà sous la vague. Mais voilà, ça a été hyper formateur, mais je sais que j'avais toujours eu cette attirance. Puis on a eu des parents, nous, qui nous ont toujours beaucoup poussés à expérimenter, qui nous ont toujours poussés à voyager, qui nous ont envoyés depuis qu'on est tout petit dans des camps de tennis aux quatre coins du monde, etc. Donc ils nous ont toujours dit que c'était tellement formateur que de partir et d'expérimenter d'autres choses et de se confronter à d'autres cultures, etc. Donc je pense qu'on a quand même toujours eu ça vachement en nous.
Ouais.
J'ai donc ma sœur Alix et mon frère Antoine qui a 18 mois de plus que nous. Donc voilà, il y avait en fait toutes ces petites choses-là qui faisaient vraiment partie ouais. de nous, sans qu'on le sache vraiment, et en fait qui m'a vraiment poussée au bout de 3 ans où j'ai quitté TBWA et on a lancé ce première société avec Jonas qui s'appelait 37 US. Et le concept était très simple, c'est qu'on partait en road trip géant pendant X mois qui était indéterminé et on ramassait tout ce qu'on aimait. Donc ça allait de meubles, on faisait des ventes aux enchères pour récupérer des meubles, on faisait des usines, enfin c'était vraiment dingue. Et puis on a vraiment voyagé dans le fin fond de l'Amérique, donc on a fait ça pendant 6 ans.
Et comment c'est venu cette idée? Ça vous a pris
un matin? En fait, on est parti la première, oui, c'était assez bizarre. On est la première année où on est sortis ensemble, il y avait le fameux Thanksgiving qui arrivait.
Okay.
Et Thanksgiving aux États-Unis est presque plus important que Noël. Et donc Jonas m'a dit viens faire Thanksgiving chez nous, etc. Et en fait, on s'était dit, donc lui, il vient du Midwest, il est à 3 heures au sud de Chicago, okay. Donc c'est à peu près 16 heures, 18 heures de route de New York. Et en fait, on venait d'aménager dans un nouvel appartement à New York et on s'était dit qu'il fallait qu'on le meuble. J'ai toujours eu un peu l'angoisse du Ikea.
Ouais.
Donc on s'était dit qu'on irait en voiture avec une remorque derrière et qu'on ferait un petit road trip pour aller jusque chez ses parents. Et en fait, on a commencé à s'arrêter dans plein de vieilles brocantes, etc. Et puis on avait ça en nous, quoi. On avait trouvé une usine, je sais pas, ils avaient des chaises empilées les unes sur les autres qui devaient avoir 50, 60, 100 ans d'âge, j'en sais rien. Et en fait, on a tous les deux flashé sur les quatre mêmes chaises. Enfin, on avait vraiment ce truc-là. Et je me souviens que je lui avais dit, mais t'imagines le rêve si jamais nos vies, c'était ça, en fait. De voyager, dormir dans des motels à droite, à gauche, d'acheter ce qu'on aime et en fait de les revendre après ou d'en faire, on savait pas encore exactement quoi. Donc c'est vraiment né comme ça. Mais ça, c'était la première année où on est sortis ensemble. Donc moi, j'arrivais à New York.
Donc t'avais 23, 24
J'avais 23 ans 23 et ans. On déménage et ça m'a quand même pris 3 ans. Parce qu'en fait, on en a parlé, mais c'était juste une graine, je pense, qui a été plantée. Mais on s'était pas du tout devenu un sujet ou un truc. On s'était dit, on va continuer à faire ça. Et du coup, je pense que la graine a germé au fil des années, mais très inconsciemment, puisque moi j'étais à fond chez TBWA et que j'adorais être là-bas. Et je sentais que j'avais besoin de. Nos parents nous ont toujours dit, en fait, ta vingtaine, il faut que tu apprennes, il faut que tu travailles dans une bonne boîte et que tu apprennes à travailler. Il faut que tu acceptes que tu t'arrives et que tu connais rien, ou que tu penses connaître, mais que clairement tu connais le pic du iceberg et qu'il y a tout ce qui est en dessous. Et qu'une fois que tu as été formé dans des grosses boîtes qui t'apprennent à travailler, à te structurer, tu peux après toi créer ton projet. Mais tu peux pas créer ce que tu as envie de créer si tu n'as aucune structure, que tu ne sais pas te servir de Excel, que tu ne sais pas, tu n'as aucune idée du business, du rapport avec les clients, etc. C'est complètement bancal. Donc du coup, je savais aussi inconsciemment que TBWA, il fallait vraiment que je m'investisse à fond parce que c'était une école incroyable et qu'il fallait que je prenne toutes les chances pour... En fait, que on me disait, il faut que tu ailles découper ça, coller ça, etc. J'ai jamais eu le truc de me dire, ah non, je fais pas ça, c'est chiant. Je me disais que tout était formateur et qu'il fallait que je sache tout faire. Donc voilà, donc ça a duré pendant 3 ans et demi. Et puis un jour, je sais pas, une porte s'est ouverte dans ma tête et on s'est dit avec Jonas, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas? Enfin, moi, j'arrête pas parce que lui, clairement, le mannequinat, il arrêterait pas, mais il était plus libre que moi sur les horaires. Et pourquoi est-ce qu'on se lance pas, etc. Et en fait, du jour au lendemain, on a packé notre appartement de New York qu'on a loué et on est parti sur la route. Mais vraiment du jour au lendemain, quasiment.
Ah ouais.
Mais parce que c'était... c'était tellement ancré en nous, je crois, et puis on était tellement à une période où on savait qu'on s'aimait tellement avec Jonas qu'on faisait pas, enfin ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble, 3 ans et demi. On était, comme j'avais pas ma sœur jumelle à New York, je pense que j'ai inconsciemment aussi reproduit une petite relation fusion avec Jonas, qui lui aussi a un frère qui est très proche, donc on est très famille.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'on était complètement en osmose de ça. Et puis, je me souviens que le jour où j'en ai parlé à mes parents, je me suis dit, bon, potentiellement, ils vont me dire, franchement, tu déconnes, ça fait 4 ans que tu es chez TBWA ou tu commences à être à l'aise, machin, etc. Pourquoi tu lâches tout maintenant? Et je pense qu'ils ont tellement senti le truc en moi et en Jonas aussi. Et surtout, je pense que inconsciemment, ça les faisait vibrer, mes parents, en fait, de dire, mais en fait, si tu fais pas ça dans ta vie, de partir en road trip avec ton mec... traverser les États-Unis, en fait, tu le feras jamais de ta vie. Et je pense que il y a toujours eu un peu dans l'éducation de nos parents cette part de voyage et de rêve, de fabriquer la vie que tu as envie de fabriquer, qui est très important, parce que c'est aussi nourrissant que mes deux parents ont vraiment aimé leur métier, ils ont adoré travailler toute leur vie, et donc ils nous ont vraiment transmis ça, en fait, que le travail, c'est pas il faut chercher ce que tu veux faire et te donner les moyens de le faire. Donc je pense que voilà, j'avais pas du tout la pression du côté de mes parents, j'avais pas non plus de pression financière parce qu'en fait on partait sur la route, ça allait pas nous coûter grand, enfin il y avait pas de grand, et puis si jamais ça marchait pas et qu'on se plantait, en fait pas très grave.
Ouais.
On pourrait c'est aussi ça aussi, je trouve, qui est important dans notre parcours à nous trois avec mon frère et ma sœur, c'est qu'en fait il faut se donner les moyens et on est des très gros bosseurs, mais si ça marche pas ou si jamais tu te trompes, en fait, rien n'est très grave. Il n'y a pas vraiment de notion d'échec chez nous. C'est plus, c'est une expérience, en fait.
C'est drôle parce que ta sœur m'a dit la même chose. On sent que vraiment l'éducation que vous avez reçue, c'est vraiment très présent, en fait, dans votre vie.
Ouais,
et c'est formateur. Enfin, ça vous formate aujourd'hui pour les personnes que vous êtes.
Non, non, puis je pense que c'est vraiment c'est cette notion. En fait, chacun voit les choses, mais je sais plus. J'avais fait un podcast et on m'avait dit justement quels sont tes échecs. Et en fait, j'ai été un peu. Et donc elle m'a dit en rigolant, donc t'as eu aucun échec. Je lui dis si, en fait, j'en ai sans doute eu 1000, mais je les ai jamais vus comme des échecs parce que pour moi, c'est que des parcours de vie. Et puis. Et puis la route est sinueuse, en fait.
Bien sûr.
Donc pour arriver là, il faut accepter que tu vas tomber 10 fois, qu'il va falloir te relever, que parfois ça va être un peu plus dur, qu'il va falloir parfois que tu arrêtes pour prendre un peu de recul, changer complètement d'optique parce que c'est peut-être pas que ton but est là et c'est peut-être juste que la porte d'entrée que tu veux prendre n'est pas la bonne et qu'il faut peut-être que tu contournes pour... Donc ouais, je pense qu'on a vraiment cette agilité, on va dire, de se dire qu'en fait, rien n'est... On bosse vraiment beaucoup, mais rien n'est grave. En fait, quand ça marche pas...
Life is a game.
Voilà. Je m'écroule pas, en
soit
fait.
Soit tu perds, soit t'apprends.
Non, c'est juste, ça fait partie du jeu. Et parfois, c'est fatigant. Hein, mais,
bien sûr.
Puis parfois, ça prend du temps, plusieurs fois d'affilée. Mais voilà, donc je pense qu'on avait vraiment... Enfin, en tout cas, moi, pour ce projet-là, j'avais pas la crainte de me dire « Mais mon Dieu, si tu fais ça, t'auras plus... ton salaire de TBWA, t'auras plus ça, nanana, et pour moi c'était en fait on va y arriver quoi, il y a pas de... Donc voilà, c'était assez... Donc on a fait ça pendant 6 ans, qui étaient vraiment les plus belles années de ma vie, parce que c'était quand j'y pense maintenant, puis surtout le monde dans lequel on est aujourd'hui, je me dis mais quelle insouciance et quelle liberté on avait, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, ça commençait à peine. Et je sais pas, on rencontrait des gens mais qui étaient tellement incroyables, du fin fond de l'Amérique, qui vivaient mais à une autre époque quoi. On a l'impression qu'on était dans les années 50. Enfin, c'était vraiment dingue.
Quelles leçons tu gardes qui peuvent te servir aujourd'hui justement de ces 6 années?
Je pense tout. Moi, en vrai, j'aime beaucoup les gens et j'ai fait toutes les plus grosses rencontres de ma vie qui ont été décisives, notamment en céramique sur des gens dans la rue. Donc, je pense que ça m'a vraiment donné cette. J'étais assez timide. Enfin, je peux toujours l'être, mais je sais que on a vu tellement de gens différents. Il y a vraiment ça, je pense que ça, au niveau socialement, ça m'a vachement
poussé à aller vers l'autre.
Poussé à aller vers l'autre, à être curieux de l'autre, parce qu'ils ont des parcours de vie, ces gens-là, qui sont complètement dingues. Enfin, il y a tellement de parcours de vie possibles qu'en fait, puis c'est vrai que nous, quand on est dans une trajectoire où on se dit que tous les gens font un peu ça, alors qu'en fait on se rend compte qu'il y a je sais plus, il y avait un des fermiers, on était dans l'Illinois et il devait avoir 80 ans, qui était mais vraiment le cliché du fermier américain avec sa grosse salopette Carhartt, il avait sa pipe dans la bouche, sa casquette qui avait plus de couleur tellement il l'avait portée au soleil, et en fait le mec était né sur ses terres. Donc il expliquait qu'il était né dans la grange qui était là, qu'il a grandi avec ses frères et sœurs, que sa mère s'est occupée d'eux, que la grange qui est sur leur terrain là-bas, en fait, elle n'a pas été ouverte depuis 30 ans parce que c'était vraiment le garde-meuble de ses parents. Et qu'en fait, il disait qu'il n'est jamais sorti, grosso modo, de son périmètre de terre. Quoi. Et je me disais, c'est dingue quand on est aux États-Unis. Et puis quand on est... moi, j'avais vraiment le rêve de l'Amérique. Et je me dis, mais le pays est tellement grand, il y a tellement de choses. Ça me paraissait dingue que le mec... Et en même temps, il avait une telle richesse dans ce qu'il exprimait de... Oh, je ne sais pas,
il n'avait pas besoin de créer.
Ouais, et puis presque, en fait, pourquoi vous avez besoin de traverser des kilomètres et des kilomètres de...
Oui, parce parfois, des rencontres te remettent vraiment à ta place et te poussent à réfléchir à toi, tes besoins...
Exactement. Donc il y a eu ça, il y a eu ce qui a été très formateur pour moi, ça a clairement été TBWA, parce que je me souviens que j'avais eu un petit coup de cafard au début et que j'avais envoyé un mail à ma mère et que ma mère m'avait répondu dis-toi qu'après avoir serre les dents parce qu'après cette expérience-là t'auras plus peur de rien.
Ouais.
Et je dois dire que après TBWA, d'arriver dans une boîte complètement américaine à 22 ans, puis ils marchent tellement vite, ils sont tellement en avance sur plein de choses. Alors ils sont très en retard sur d'autres, surtout en ce moment où c'est pas le meilleur moment pour parler de l'Amérique. Mais Dans ces boîtes-là, ils sont tellement créatifs, ils sont tellement, enfin c'est dingue, c'est que des cerveaux hyper brillants qui tiennent la... Donc j'étais complètement aspirée par ça et je me disais en fait il faut que je vive cette expérience jusqu'au bout parce que clairement.
Mais c'est drôle, mon père me disait exactement la même chose. Moi j'avais fait une expérience chez Havas Paris parce que je suis passée par pas mal d'agences aussi comme toi et dans une expérience qui s'est extrêmement mal passée et mon père m'avait toujours dit si tu vas jusqu'au bout toute ta vie, tu réussiras à aller jusqu'au bout des choses.
Ah ouais, complètement.
Et c'est tellement ça.
Mais c'est ce que je
trouve. Alors que si t'arrêtes.
Mais bien sûr, c'est ce qui est difficile aujourd'hui avec, je trouve, la génération qui arrive. Et c'est que je pense que. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment grandi avec le goût de l'effort et la notion de l'effort. Et en fait, plus c'est dur, plus tu t'accroches, tu ne lâches pas.
Exactement.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, dès que c'est difficile, bon, on arrête de travailler, on change de. Alors que non, en fait, là. Pour moi, c'est très similaire au sport, en fait.
Ouais.
C'est qu'en fait, bah oui, c'est dur. Et quand tu cours, et puis au début, tu vas courir 2 kilomètres, t'es essoufflé. Et puis tout d'un coup, boum, tu passes un cap et un autre cap. Et puis tu te retrouves à pouvoir courir 10 kilomètres. Mais c'est un effort et c'est vraiment un travail sur soi qui... Enfin, il n'y a que comme ça qu'on progresse, en fait. Il n'y a que dans cette zone d'inconfort et où on est quelque part mis à mal, où en fait, on va tout d'un coup... Soit on lâche et puis on dit « Ah non, mais ma boss est comme ça et du coup, j'accepte pas comment ça travaille, comment machin, etc. » Et du coup, t'auras rien appris. Soit tout d'un coup, on s'accroche et puis on essaie de continuer et d'avancer, etc. Et je trouve que c'est vraiment ce que je trouve que c'est vraiment notre vieille génération. J'ai l'impression qu'on a grandi avec ça. Moi, quand j'étais en stage, mais je me posais même pas la question à quelle heure je partais, si j'étais payée, pas payée. C'était en fait, je me rendais compte que c'était une chance pour moi. L'entreprise pouvait clairement se passer de moi, mais par contre, moi, il fallait que je m'accroche pour tout comprendre. Ma boss, quand elle me disait j'ai une réunion, en fait, c'était à moi de soit, en fait, j'y vais pas, soit en fait, je me bats parce que c'est attends, mais je viens à la réunion parce qu'en fait, j'ai besoin de tout entendre ce qui se passe pour comprendre de quoi vous parlez, de qu'est-ce qui se passe pendant ces réunions. Et en fait, aujourd'hui, je pense que l'aisance qu'on a chacun dans nos boîtes vient vachement de ça, quoi.
Ouais, et tu fais bien de dire qu'au départ de cette interview, tu sais que l'entrepreneuriat, c'était pas facile, c'était pas... Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que les jeunes ont la sensation, je pense, via les réseaux sociaux, via les gens qui suivent, via les influenceurs, où aujourd'hui, finalement, créer une boîte, c'est simple, finalement. Et on va aussi parler de tout ça avec Seven Paris.
C'est tellement complexe.
Bien sûr,
et il y a tellement de choses. Il y a tellement de petits... Il y a tellement 1 milliard de petits détails qui, en fait, si on tient pas tout dans la main et qu'on lâche d'un côté, en fait, il y a ça marche pas, quoi. C'est un tout. Il y a un côté très, presque une notion d'absolu, en fait, dans une boîte qui marche. C'est qu'il faut que le produit, la communication, la fabrication, la prod, tout, en fait, soit aligné. Et c'est le travail d'une vie, quoi. C'est,
Tout à fait. Vous êtes rentrée en France?
Oui, alors on est rentré en France après 12 ans pour moi à New York. Jonas était à New York depuis bien plus longtemps. Et on est rentré en France, on a eu... mais quand on a arrêté 37 US quand 2 ans après qu'on ait eu Muse, qui est donc notre premier enfant.
Qui est là.
Qui est là, exactement, parce qu'elle est en vacances un peu prématurée. Mais on a arrêté parce qu'en fait on avait perdu tout ce qui était génial dans notre projet, c'était la liberté totale de faire ce qu'on voulait, les voyages, de ramener nos containers, de les vendre quand on voulait. Et puis on avait aussi un petit peu passé le côté, moi j'en avais un peu ras-le-bol de tout l'esthétique vintage.
Ok.
Et voilà, et en fait, très rapidement, on pensait pas du tout rentrer en France, mais on a arrêté 37 US. Et on avait un stand sur le Maison et Objets qui était booké et on s'est dit c'est quand même trop dommage de perdre le stand qui coûte quand même les yeux de la tête. Et Jonas m'avait dit tu devrais faire tes assiettes, sous-entendu les 2-3 petites bouses que j'avais fait de temps en temps quand je rentrais à Paris. Et quand on faisait des pop-up avec les meubles, on avait choisi quelques assiettes avec des motifs de pick-up truck américain, etc.
Ok.
Et voilà, et Jonas m'a dit, tu devrais les faire parce que je suis sûre que ça marcherait. Et en fait, comme tu as le stand, fais des protos et puis tu verras bien ce que ça donne. Donc on est rentré, c'était l'été 2016, avec Muse qui avait donc 2 ans. J'ai commencé à faire tous mes protos d'assiettes. Je pense que 80% des motifs qu'on a aujourd'hui, c'est les premiers motifs qui ont été créés.
Ok.
Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire tous mes protos. Donc on avait 300 assiettes parce qu'on voulait faire un grand mur d'assiettes.
Juste pour contextualiser, ça devenait d'où ? Comment ça t'a...
Ah oui, pardon. C'est que quand j'étais, je devais renouveler un visa de travail aux États-Unis, et donc il fallait que je sorte du pays pendant 6 semaines.
Ok.
et je suis rentrée en France. Et en fait, j'ai rencontré en marchant dans la rue une nana qui fumait une cigarette adossée à un mur. Et je sais pas pourquoi on s'est parlé. Et en fait, cette fille qui s'appelle Claire Lecreux, qui a un très joli atelier qui est maintenant à Périgueux, okay. qui s'appelle Atelier Mataguerre. On a commencé à se parler. En fait, elle tenait l'atelier qui était adossé à elle, où elle donnait des cours. Et en fait, on s'est parlé pendant une heure dehors. Et moi, j'adore vraiment les rencontres de rue. Mmh. C'est vraiment ma passion. Mmh. Et elle m'a dit, si t'es là pendant quelques semaines et que tu bosses pas, etc., viens faire quelques cours avec moi, machin. Et donc, en fait, j'ai passé un mois avec elle dans l'atelier. Où elle m'avait dit, le plus simple clairement à faire, c'est des assiettes. Donc je faisais au rouleau pâtisserie, je faisais qu'avec des terres recyclées au début. Et donc je faisais ça, et puis je faisais mes petits dessins dessus, et elle s'occupait de les cuire, les maillages, etc. Moi, je connaissais pas du tout la partie technique, et en vrai, ça m'intéressait pas du tout, parce que pour moi, c'était juste ce qui m'intéressait, c'était de faire l'assiette. Mais donc ça a commencé comme ça, et en fait, du coup, quand je rentrais à Paris, j'allais dans son atelier, je faisais une petite dizaine d'assiettes rapidement qu'elle me cuisait, et je les récupérais, on les vendait sur nos pop-up de meubles.
D'accord.
Donc ça a commencé comme
C'était comme ça.
Et comme je faisais ça pendant les 6 ans où on avait où on faisait 3-7 US, c'est vrai qu'à chaque fois j'avais dû faire 200 assiettes au total entre tous les pop-up qu'on avait fait. Et donc c'est pour ça que Jonas me dit tu devrais faire lancer une collection d'assiettes, etc.
D'accord.
Et donc je me lance dans cette petite entreprise, sachant que je ne sais ni faire marcher un four, que j'ai aucune technique, que j'ai jamais pris un cours, et par contre j'ai une idée très précise de ce que je veux et le résultat de la vaisselle que je voulais. Donc j'ai fait le travail à l'inverse. J'emmenais les assiettes cuire dans un atelier dans le sud, là où on était. Et du coup, en début septembre, on arrive avec notre camion et on avait nous-mêmes fabriqué évidemment tout le stand. Et on arrive et puis on commence à faire tout notre setup d'assiettes, etc. Et on s'était dit, je ne sais plus, qu'il fallait qu'on vende 300 ou 400 assiettes pour se rembourser le stand et qu'on repartait à New York après. Et donc, c'est passé un truc incroyable, mais très désagréable. On a eu énormément de commandes sur salon. Je crois qu'on avait pratiquement 3000 assiettes qui avaient été commandées. On avait eu le bon marché.
Vous
n'y
attendiez pas du tout, en fait.
Pardon ?
Vous vous y attendiez
non,
pas
puis
du
surtout,
tout.
On n'était pas prêt du tout. Ouais, quoi. Donc, ouais. Toujours une phrase que mon père me disait, c'est prends les commandes et tu régleras les problèmes après.
Ouais.
Donc déjà, prends-les, etc. Et donc, je me souviens que j'ai appelé Alix en panique. J'ai dit, Alix, on a eu le bon marché qui est passé. Non, mais panique. Moi, j'avais que le côté stressant, quoi. Et voilà, donc on avait vendu 3000 assiettes. Et en sortant du salon, j'ai dit à Jonas, en fait, il faut qu'on se pose la question. C'est que 3000 assiettes, je ne peux pas les produire toute seule. Donc, soit on s'installe à Paris, je produis et on commence ça, soit j'annule toutes les commandes et on repart à New York faire notre vie. Donc, on décide de rester. Et du coup, là, on est au mois de septembre et il faut que je livre les commandes pour Noël, donc début novembre maximum, dont une série limitée pour le bon marché. On avait un pop-up pendant un mois. Donc voilà, ça allait hyper vite. Donc c'était très flatteur sur le moment. Mais je sortais du salon le soir. Je pense que je n'ai pas dormi pendant plusieurs mois. Et bref, on finit le salon. Et je sors mon chien. On avait un gros bouvier bernois à l'époque. Et donc je sors mon chien. Et en fait, il fait pipi sur une roue de vélo. Le mec de la terrasse, pas content, vient me voir en me disant « Relou, votre chien, machin, etc. » Donc, je m'excuse platement. Et on parle pendant une heure et demie avec ce mec.
Encore une rencontre de rue.
Non, et donc, je parle à ce mec que je ne connais évidemment absolument pas. Et on finit par se parler pendant une heure et demie. Et donc, on se parle de nos vies, etc. Et je lui dis que je suis un petit peu paniquée parce que j'ai jamais travaillé en France. Donc ça faisait 12 ans que je n'étais pas revenue. Il fallait que je trouve un atelier, que je lui explique toute l'histoire, qu'il faut que je trouve des gens pour m'aider à la fabrication, etc. Et là, il me dit, attends, mais tu sais que j'ai un copain qui a un atelier partagé, qui est hyper bien, un Villejuif, c'est dans un grand hangar, attends, bouge pas, je retrouve le numéro. Le lendemain matin, j'appelle son copain, qui me dit, attends, je te file le numéro du proprio. Dans la foulée, j'appelle le proprio qui me donne rendez-vous l'après-midi même. Et on va dans cette espèce d'énorme hangar qui était vraiment mes canons. Il n'y a que des corps de métiers différents. Il y a des mecs qui bossent le métal, le bois, etc. Et ils montrent un petit atelier vraiment qui a l'air de rien, tout poussiéreux, de 60 mètres carrés. Et je suis là, c'est bon, je le prends. Le lendemain, on aménage des tréteaux avec des trucs de bois, etc. Il faut que je trouve un four. Donc je prends le dépôt de toutes les commandes qu'on a eues pour m'acheter un four, parce que ça coûte quand même une blinde. Mais je ne sais absolument pas le faire marcher. La terre, j'ai aucune idée des terres. Par contre, je sais les terres que j'utilisais pour faire mes petites assiettes, donc je recommande cette terre-là. J'appelle Claire pour lui demander, la fille de l'atelier, pour lui demander l'émail, comment faire, machin, etc. Et je ne sais pas où recruter des gens parce que je n'ai jamais travaillé en France, etc. Du coup, comme il faut aussi que je trouve une nounou pour ma fille, on va sur le site de Babysitter, enfin même pas sur la page Facebook, ouais. Et on met une annonce en disant qu'on recherche des nanas qui savent dessiner, etc. pour faire des dessins sur des assiettes et tout.
Que tu vas former en fait pour, à ta méthode.
Et on recrute comme ça au début. Donc autant te dire que c'est le chaos total. Il y a tellement de problèmes en production. Enfin, le truc n'est pas du tout rodé. Je suis en train de faire tous les tests avec les fours, mais ça prend des semaines et des semaines. Le temps que les... enfin, il y a vraiment 3 semaines de fabrication pour une pièce. Donc en fait, quand tu vois tes premiers tests, tu as déjà perdu 3 semaines. Si ça ne va pas, pardon. Franchement, ça a été dur. Très formateur aussi.
Ouais.
Mais vraiment, je pense que c'est une zone très inconsciente en moi et insouciante qui fait que je me suis lancée là-dedans comme
ouais,
ça.
Ouais, complètement. Et j'allais dire aussi, et ça je le ressens avec toi, parce que comme je te dis, je suis très énergie, tu vas facilement vers les gens parce que tu dégages quelque chose de positif et de confiant.
Ouais, je sais pas. Je sais que moi j'ai toujours adoré parler aux bouchers.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et tout, fou, j'adore.
Et en fait, tu te fais confiance, donc les gens te proposent des choses et c'est.
Mais c'est quand même, ouais, c'est. Je recommande pas aux gens de faire ce que j'ai fait parce que je pense qu'il y a quand même des voies. Et après, en même temps, si je me dis, ça m'a pris 4 ans à vraiment structurer cette production. Aujourd'hui, on est incroyablement structuré. On a enfin des vraies capacités de production, de stock. Tout est sur tableau Excel. On sait exactement ce qu'on produit à la journée. Enfin, c'est vraiment délirant aujourd'hui comme on s'est structuré. Mais ça m'a pris 4 ans.
Ouais.
Et ça m'a pris 4 ans où vraiment je suis passée par les hauts et les bas. Alors après, on a toujours eu de la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit j'arrête parce qu'en fait, j'arrive pas à vendre mes produits. C'est qu'en fait, on a toujours eu, nous, le problème inverse. C'est le problème de production. C'est-à-dire qu'on avait la demande et on a toujours été freiné par un problème de production, un problème de cuisson de four, un problème d'émail. Ça a toujours été ça. Et là, ça fait, alors je touche du bois parce qu'on n'est jamais à l'abri avec la céramique, mais ça fait vraiment, depuis qu'on est là, en fait, on n'a plus de problème de production, quoi.
Et justement, si on parle un petit peu des principaux pivots, donc depuis 2016, donc vous aviez eu cet atelier, tu as commencé à recruter, et ensuite, comment la boîte a évolué et s'est structurée ?
Alors, ça a été très folklorique, puisqu'au début, alors ça paraît très archaïque, mais en 2016-2017, parce qu'en fait, la société française a été créée début 2017.
Ouais.
Puisqu'avant, j'étais sur la société américaine, on n'avait pas encore les 6 premiers mois. Et du coup, quand on a créé la structure française, bah, ça nous a quand même forcé à nous structurer. J'ai compris que les temps de formation des personnes déjà étaient beaucoup plus longs que ce que je pensais, ce qui veut dire que c'est comme de l'écriture, c'est qu'on sait tous écrire. Mais moi, je voulais que les dessins soient les miens. Et donc, il fallait que toutes les filles qui viennent dessiner, elles apprennent montrer, en fait. Et donc, c'est assez difficile. C'est comme si toi, j'écris une phrase et je te dis, bah, écris-la de la manière.
Bien sûr.
C'est vraiment ce qui se passe.
C'est très fin. Quand on regarde, on va sur le site ou même à la boutique, c'est extrêmement fin.
Ouais, c'est très fin. Et puis, les dessins, comme c'est tout fait à main levée, moi, je voulais vraiment le côté hyper art artisanat. Ouais. Donc, je voulais que ce soit un produit qui soit très fini, qui soit lumineux, qui soit... Donc ça m'a pris du temps à mettre en place. Et en fait, donc, quand on s'est développé au début, on s'est développé que en wholesale. Comme on avait commencé avec maisons et objets, on n'avait pas de site en propre. Et donc, on faisait que du wholesale. En fait, du coup, on avait beaucoup de volume.
Donc, revendeur.
Revendeur. On avait beaucoup de volume. On avait évidemment des marges qui étaient complètement éclatées parce que quand moi, j'avais fait mes premiers prix de revient, j'avais pas pris en compte toute la perte qu'on allait avoir, toute la casse, enfin, on n'était pas du tout setup, quoi. Et donc, c'était très bien pour l'image parce qu'on a ouvert 140 points de vente en 2 saisons. Donc, c'était incroyable. Mais c'était un développement qui était beaucoup trop rapide. On ne pouvait pas survivre en production. Moi, ça m'avait forcé à avoir une très grosse équipe en fabrication, mal organisée, avec des gens qui, pendant que le truc est en train de sécher, bah, elles se tournent les pouces. Enfin, bon, ça a été compliqué. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'étais sur les rotules. Je me souviens que c'était le mois de notre anniversaire avec Alix. Et en fait, j'étais épuisée et je sais plus comment elle m'a dit, mais elle m'a dit « Mais pourquoi t'arrêtes pas le wholesale et tu développes ton site en fait ? C'est-à-dire que tu auras beaucoup moins de fabrication à faire, tu vendras beaucoup mieux parce que tu auras tes propres marges et puis ça va surtout te permettre de réduire ta masse salariale ou encore aujourd'hui. Hein, parce que moi, mon coût de production, c'est ma masse salariale, quoi. » Mais du coup, on a, au bout de 3 saisons, donc à peu près 1 an et demi, on a arrêté le wholesale, qui m'a pris un petit peu de temps, parce qu'il fallait que je, pareil, moi, il faut toujours que je plante la graine, que je la laisse germer. Et une fois que ça a germé, je sens que je peux faire le changement sans douleur intérieure.
Ouais.
Donc, et tout d'un coup, je suis très sereine dans le changement, et en fait, je me dis, mais évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Alors que si jamais j'ai des changements qui peuvent être... de temps en temps, c'est que je sais qu'il faut que je change, mais que je suis pas encore prête.
Ouais, je comprends.
Et que du coup, ça va se faire avec une friction.
T'as besoin que ça mûre dans ton esprit, ouais. Et pour après passer à l'action.
Je le digère pour pouvoir passer à l'action. Et il y a plein de trucs, moi, quand je travaille, où je suis très comme ça. Il y a beaucoup de trucs, par exemple, que je suis en train de développer dans ma tête, mais je sens que je tourne autour du pot et que j'ai pas trouvé exactement le bon angle d'attaque. Et ça, j'accepte vachement de me laisser le temps, mais sans y penser. Hein, je le dis juste, en fait, ça va. Je sens qu'il faut que ça mûrisse. Et un matin, je me réveille et boum, c'est genre une évidence. C'est évidemment que c'est ça qu'il faut faire.
Ouais.
Donc c'est ça. Moi, je trouve qu'il faut, parce qu'on est dans des sociétés où tout va vite. Et en fait, je trouve que d'accepter que de se laisser le temps de faire mûrir les idées. Parce que tout prend du temps, en fait.
Oui.
Mais on regarde, hein, la nature, le faire pousser des légumes et des fruits, il faut attendre, en fait, que ça... Et nous, on a envie que tout arrive en claquant des doigts, etc., alors que c'est pas possible. Et humainement, on peut pas, en fait.
Ouais.
C'est pour ça que je pense que de temps en temps, il y a tellement de gens qui sont tiraillés et qui sont mal et qui ont des gros moments d'anxiété. C'est parce qu'en fait, ils se laissent pas le temps de digérer, quoi. Pareil avec les grossesses, les accouchements.
Ouais.
De se dire tout de suite, non mais là je viens d'accoucher, mais il faut que je reparte au boulot, faut que je fasse... Et je l'ai fait, hein, moi, mais leçon apprise maintenant, plusieurs années plus tard. Il faut vraiment, se forcer à sortir de ce truc-là, quoi.
Ouais.
De cette pression du temps, de cette pression de... Non, en fait, il vaut mieux prendre du temps et bien penser quelque chose plutôt que faire 15 000 trucs à la fois. On fait rien de bien, rien n'est abouti. Du coup, c'est hyper stressant pour nous parce qu'on se dit que le truc n'est pas bien fait. Mmh. Donc moi, c'est vraiment mon travail tout le temps sur moi où je me dis, faut que laisse le temps. Arrête de mettre des deadlines sur tout.
Intéressant. C'est intéressant.
Donc voilà, mais donc on a arrêté le wholesale en 2000, je crois que ça devait être 2018. On a créé notre premier site internet qui a trop bien marché. Surtout que c'était vraiment le début des campagnes sponsorisées, Google, machin, etc. Mmh. Donc à l'époque, c'était très peu cher, ça marchait hyper bien. On avait des taux de conversion, mais hallucinants. Des taux d'acquisition, ça nous coûtait. Enfin, c'était vraiment dingue.
Là encore, tu t'étais entourée d'un spécialiste en digital ou...
Pas du tout, non.
Non.
Alors, nous, on travaille beaucoup en famille et on est tous, comme on a un peu tous nos boîtes, etc. On échange évidemment beaucoup.
D'accord.
Puis évidemment, tout notre cercle d'amis, tous nos amis ont leur boîte. Donc, on échange beaucoup de choses. Et si, en fait, on avait un mec, c'était un Australien qui nous faisait... Enfin, nous, on développait les campagnes et c'était lui qui nous les postait, qui regardait quand même toute la data, etc. Si, si, j'exagère.
Ouais.
Qui faisait ça, mais sinon, on faisait... on a toujours fait tout en interne, très multitâche.
Tu demandes à un pote, à ta sœur, et c'est comme ça que ça se passe.
Et donc, on a donc créé le site, donc il a cartonné, etc. Et on a commencé à avoir fin 2019... ou même, je ne sais même plus quand, début 2019, en tout cas,
2019.
Qui était l'année noire pour nous. On a commencé à voir, mais du jour au lendemain, toutes les nouvelles fournées qu'on sortait des fours, avec tout le haut de l'assiette qui était tout craquelé. C'est un truc normalement qui s'appelle... j'ai oublié le... Tressaillage, pardon, j'ai eu un... C'est un mot noir pour moi, le tressaillage. Tellement... Ah non, ça nous a vraiment pourri. Bref, on a commencé à voir ça. Et donc, je dirais que je me suis dit, c'est du tressaillage. Et je me suis quand même dit, c'est bizarre qu'on ait ça maintenant, alors qu'on n'a pas changé notre recette d'émail. On met à l'intérieur une espèce de frite de dilatation qui fait qu'en fait, ça permet à l'émail d'être plus souple pour pouvoir mieux adhérer à l'assiette. Et je me dis, c'est quand même bizarre que du jour au lendemain, on ait ce problème-là et tout. Donc, j'appelle certains fournisseurs, etc. Et il me dit, il faut que vous rechangez votre formule, etc. Donc on repart à faire des tests. En attendant, moi, j'ai quand même toute une équipe que je paye pour faire la production. Sauf qu'à un moment, je me dis, je vais arrêter. Enfin, ils ne peuvent pas continuer à produire sur des pièces qui sortent défectueuses, etc. Et le truc, on n'arrive pas à enrayer le truc. On fait des tests dans tous les sens. On n'arrive pas à régler ce problème. Et du coup, je me dis, mais c'est que le problème vient d'ailleurs. C'est que c'est pas forcément l'émail, etc. Du coup, je me rapproche du fournisseur de terre. Et en fait, le mec m'explique qu'il a changé un truc de la terre, qui était une terre naturelle, dans le sens où elle était vraiment puisée dans la carrière et très peu modifiée et calibrée. Ce qui fait que de temps en temps, on pouvait avoir des vraies variations de teintes entre une partie de un lot de terre et un autre. Mais ça ne nous dérangeait pas vraiment, ça faisait partie de la marque. Et en fait, bref, le mec explique qu'il a modifié quelque chose, nanana, et donc on comprend que... Moi, j'avais commencé à poster le problème sur Instagram, parce qu'on avait évidemment plein de commandes en cours qu'on ne pouvait pas livrer, donc on avait contacté les clients, et je me suis dit, bah, on va parler du sujet, puisque pareil, on vient moi d'une famille où on ne met pas les trucs sous le tapis, quoi.
Ouais.
Donc, il vaut mieux, en fait, exprimer, et puis dire, en fait, on a un problème de production, et on est là pour l'arranger, plutôt que... Excusez-nous, on a un retard, on ne sait pas, d'essayer de trouver un mytho, enfin, et puis c'est moins stressant aussi, une fois que c'est dit.
Ouais.
Et du coup, on a le problème en fait dure. Le mec nous livre un autre lot de terre qu'on teste, etc. Et sur Instagram, j'ai plein de nanas qui ont des ateliers qui nous suivent et qui disent « Ah, mais vous utilisez telle terre. J'ai exactement le même problème. » Donc en fait, il y avait une grosse partie des gens qui utilisaient cette terre-là qui, je me suis dit « Ça, il n'y a pas que moi. » Sauf que moi, le problème, c'est que comme j'avais un business model et que j'ai toujours... qui est pas nous, où on fait un vase et puis on vend un vase ou deux vases par mois. Moi, on a
grosse production.
On a une grosse production. On a le site qui vend tous les jours, etc. Donc on est on a de la demande et on est obligé d'y répondre, quoi. Donc c'était très handicapant et en fait et un jour en fait j'arrive le matin et je sais pas, je regarde la production qui sort, etc. Et en fait me vient, mais telle une évidence, il faut que j'arrête la production. Il faut que je me sépare d'une partie de mon équipe. Et il faut que je remette les trucs à plat. En fait, là, je n'endors pas la nuit parce que je suis en train de me mettre une deadline avec... Mais en fait, ça prend tellement de temps à faire tous ces essais. Et je le sais, puisque comme j'ai fait ça 3 ans avant pour mettre en place ma production et que je sais que le temps que ça m'a pris pour réussir à sortir 4 assiettes similaires, je me dis, en fait, il faut que je me déleste de ce truc-là. Et ça tombait à pic. J'ai une des filles qui était en CDD qui partait vivre à l'étranger... une autre qui, pareil, était en plein changement de vie, etc. L'un dans l'autre, j'ai 3 personnes qui, où la séparation se fait assez facilement et presque au bon timing. Et je décide de garder une fille qui m'aide pour toute la partie test, justement. Et du coup, on ferme la production, on ferme le site internet. On décide de garder tout le stock qui est bon, on décide d'aller le mettre au bon marché où on vendait là-bas.
D'accord.
On s'est dit, au moins, on a un pôle qui vend. Et je dis, bon, on ferme l'atelier, on fait des tests et je me prépare dans ma tête que ça peut prendre 3 mois, 6 mois ou 1 an. Mais j'accepte ça. Et en fait, j'avais tellement réduit aussi mes coûts, c'est-à-dire que j'avais que mon petit atelier que je payais et qui ne me coûtait rien. J'avais un staff et j'avais quand même un petit confort financier des mois qu'on a eu en e-shop où tout allait bien, quoi. Je savais que je pouvais survivre pendant 6 ou 8 mois comme ça. Donc voilà, donc on transforme l'atelier en laboratoire et on part dans des tests à la chaîne de terre, de nananana, etc. Et dans toutes ces transformations-là, en fait, on décide de passer à de la terre liquide. La terre de coulage, alors qu'avant, on faisait des assiettes au rouleau à pâtisserie. Donc, en même temps, je me dis, on change de terre, mais on va aussi changer de technique parce qu'on va prendre une technique qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans nos productions, de pouvoir mieux produire et d'avoir des pièces beaucoup plus régulières, etc. Donc voilà, ça aura après presque 1 an. On a vachement communiqué sur Instagram sur tout ça, sur l'évolution des tests, etc. Donc, je crois que les clients ont vachement aimé. Et c'est marrant parce qu'on a plein de clients qui, quand ils reviennent ici, nous disent « Je vous ai suivi toute cette période de terre. » Et puis, on était prêt à réouvrir. Enfin, on sentait qu'on était presque prêt à réouvrir, sauf qu'il y a eu le Covid qui est arrivé juste après. Et en fait, le Covid, moi, ça a été une bouffée d'oxygène. On a décidé de plus travailler. La fille que j'avais gardée, qui en plus était toute seule à Paris, s'était dit « moi, je suis quand même contente d'avoir une partie de la production à faire parce qu'en fait, ça m'occupe quand elle passe 2 mois et demi quand même toute seule à Paris. Donc, on était allé livrer toutes les pièces chez elle où elle avait... c'était la bonne production, on savait. Et elle avait fait pendant 2 mois, je sais pas, quelques heures par jour où elle dessinait une partie de la prod pour que quand on revienne, on puisse tout de suite émailler et puis on savait qu'on avait un début de production qui sortait. Et moi, je n'ai rien fait pendant 2 mois sauf m'occuper du nouveau site internet. Voilà, et en fait, on est rentré de confinement, moi, hyper reposée, parce que je sentais que j'étais quand même hyper tendue de cette année qui était passée, même si je l'avais prise du meilleur pied que je pouvais la prendre. Et on a réouvert le site internet la dernière semaine d'août. Et d'accord. Je me souviens ce qu'on avait vraiment fait. Je me souviens que c'était la dernière semaine d'août. Parce qu'on avait vraiment fait un casse. On avait fait pratiquement le chiffre en une semaine, de ce qu'on fait normalement en un mois sur le site. Ouais. Donc on avait eu un énorme soutien des clients qu'on avait. Ça faisait un an qu'ils attendaient leur commande. Donc on avait évidemment envoyé, quand on a fermé l'atelier et le site, on leur envoyait un message en leur demandant s'ils voulaient qu'on les rembourse ou s'ils voulaient attendre. On a eu vraiment, je pense, 90% des clients qui nous ont dit « on vous soutient, on est à fond derrière vous, vous allez avoir besoin en fait de l'argent que vous avez là ». Du coup, on a hâte de découvrir la nouvelle production, etc. Donc, on a vraiment eu un soutien de dingue de nos clients, qu'on remercie encore aujourd'hui. Et voilà, donc en fait, on a réouvert le site, on avait une nouvelle équipe. Enfin, franchement, on a passé un an et demi encore trop sympa. Et moi, j'étais à ce moment-là dans une recherche assez intense juste après le Covid pour trouver une boutique. En fait, on avait... On était à Villejuif dans un atelier que moi j'adorais, même si c'était pas confortable, il avait pas été fait comme il fallait, etc. Il n'était pas optimisé comme il fallait. Mais en fait, ça me rendait dingue de me dire qu'on était caché à Villejuif en train de tout faire comme ça à la main, alors qu'en fait il faudrait que les gens le voient et le sachent, quoi.
Ouais.
Et puis il y avait aussi, c'est très difficile sur le site de retranscrire toute la partie hyper artisanale parce que les gens pense quand même, parce que comme tout est très précis maintenant, que tous les motifs sont très précis, pense que c'est de la chromo en fait, que c'est dupliqué du...
Oui. Que c'est pas fait à la main, quoi.
Exactement. Et du coup, je savais que c'était vraiment... là, la production, elle commençait à se structurer, etc. Et que c'était hyper important qu'on ait... Enfin, pour que les gens comprennent la marque... Il fallait que la production soit visible.
Et c'était important pour toi, justement, que ce soit fait à la main. Jamais tu t'es dit...
Moi, c'est hyper important. Et parfois, je me dis que... mais je veux pas perdre la bataille. Mais je me dis que parfois, les gens... Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont penser que... en fait, on ferait ça industriellement. En fait, eux, ce qu'ils aiment, c'est l'esthétique 3-7. On ferait du industriel qu'on vendrait à 5 balles l'assiette. Je pense qu'ils seraient très contents.
Ouais.
Mais moi, ce qui me plaît dans l'artisanat, c'est le côté luxe. Moi, dans l'idée de la marque, c'est plus... Alors, sans me comparer à Hermès, qu'on en est encore bien loin. Mais moi, c'est le côté Hermès de l'artisanat, en fait, qui me fascine. C'est le côté que ce soit fait à la main, mais du travail exceptionnel de précision de dessin, de finesse du trait. Deux pièces qui varient très légèrement de l'une à l'autre. Mais moi, c'est cette recherche-là et cet exercice-là.
L'unicité
que...
de chaque pièce.
Voilà, il y a le côté que je trouve assez fascinant dans ce qu'on fait, mais qui, je pense, est propre à n'importe quel artisan, c'est le travail de la main, l'effort, parce que c'est quand même le meilleur outil qu'on ait, la main. Et c'est un outil qu'on peut tellement perfectionner. Et en fait, je le vois, moi, entre les premières collections qu'on a, les premières assiettes, les motifs qui n'ont pas changé et ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, c'est ce travail de rigueur et d'excellence qui me plaît vraiment dans l'artisanat.
Oui.
C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai jamais voulu, moi, avoir le côté poussiéreux de l'atelier, en fait.
Ouais.
Je veux un truc... je veux un produit fini, je veux un produit qui soit aérien, qui soit léger, qui soit moderne. J'ai pas l'envie pour ma marque, alors que je peux trouver ça tellement joli pour d'autres marques, mais moi j'ai pas du tout envie du côté rustique de la céramique, du côté un peu déglingue, etc.
Ouais, ouais.
Et voilà, moi c'est vraiment le...
Tu restes attaché à ton pourquoi et ce pourquoi tu as créé aussi au départ ta marque, qui était toi en train de...
Et pour moi, c'est le plus grand luxe aujourd'hui, quoi, d'avoir la fabrication en propre dans un endroit comme ça. On est quand même en plein Saint-Germain-des-Prés. On est dans un espace qui est
sublime.
Incroyable. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Après, ce qu'on est en train de développer, ce que j'ai une énorme excitation à développer, mais qui pour moi n'entrave en rien la marque, puisque d'ailleurs, ça sera sans doute une deuxième marque. Mais c'est qu'en fait, je rêve aussi de faire de l'industriel, mais pour pouvoir répondre à une autre demande. C'est-à-dire que moi, j'adorais pouvoir travailler avec un hôtel et faire toute une ligne de vaisselle très différente de 3-7. En fait, c'est que pour moi, il y a vraiment l'ADN de 3-7 Paris, la marque flagship, haut de gamme, luxe, etc. On est très libre dans ce qu'on fait parce qu'on fait exactement ce qu'on a envie de faire et quand on veut. Donc, on est très libre dans la création de nos formes, etc. Et en même temps, on a aussi l'emprisonnement du temps de création à la main, qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas développer parce que ça ne serait pas viable financièrement de le faire à la main.
D'accord.
Et il y a aussi évidemment les gros volumes qu'on pourrait faire pour tout ce qui est restaurant et hôtellerie. Et du coup, on est en train de développer ça puisqu'on parle à la fin du mois à Limoges pour aller rencontrer toutes les usines. Et en fait, je voudrais faire presque du semi-industriel avec eux puisque je voudrais pouvoir travailler D'accord. avec un chef, avec vraiment des motifs qu'on développe, qui sont faits en chromo, etc. Un peu comme ce que fait Hermès en vrai avec la ouais. vaisselle, puisque ouais. c'est le premier motif est vraiment fait à la main et après c'est des chromos qui sont... Et ça, c'est genre une excitation énorme pour moi parce que j'ai vraiment eu... Je trouve qu'il y a tellement de choses à développer dans l'art de la table. Et pour moi, il y a une autoroute de plein de choses à faire. Et donc ça, j'ai vraiment hâte de le faire.
D'accord. Et donc l'idée, tu disais, de cette boutique, c'était de montrer déjà aux gens ce que vous faisiez.
Ouais.
Et je crois que tu as mis en place aussi des cours de céramique.
Exactement, parce qu'il y a, un tel engouement aujourd'hui sur la céramique, je crois depuis le Covid. Ouais. Je pense que ça rassemble beaucoup de choses vitales qui font beaucoup de bien au corps et à l'âme, en vrai, sans être dans un truc de psychopathe total.
C'est vrai.
Pour moi, c'est comme la cuisine, en fait. Les gens qui disent « je cuisine pas ». Et en fait, pour moi, le rapport à la nourriture n'est pas le même. Le fait de cuisiner, le fait de découper une tomate fraîche, de regarder, en fait, le délire que c'est une tomate, c'est comme un radis. Enfin, c'est quand même dingue, tous ces aliments, les couleurs et tout. Pour moi, il y a un côté qui est très nourrissant pour l'âme. Et c'est vrai que moi, je cuisine tous les jours de ma vie. J'ai deux enfants, une boîte à gérer, mais je trouve le temps de cuisiner, parce que pour moi, c'est essentiel. Et ben, je trouve que dans la céramique, il y a un petit peu ce côté-là, en fait. C'est de la satisfaction de faire quelque chose de ses mains. Quand on est une génération qui est complètement je trouve pas le mot, mais on a complètement coupé le cordon avec... c'est pareil, de marcher les pieds nus dans l'herbe ou sur le sable, ça fait du bien à tout le monde, en fait. Ouais. D'être dans des villes... Il y a un côté... où on a besoin, en tant qu'être humain, de vivre avec la lumière du jour, de sentir les sensations, les odeurs, de couper du basilic. C'est nourrissant, en fait. Ouais, ça nourrit aussi avant de passer à table, mais ça nourrit tous les autres sens.
Et puis, on coupe l'esprit à un moment donné en créant, en fait, notre céramique.
Voilà, et que moi, je trouve tous les repas, quand je me fais une assiette de ma boule, aussi simple qu'elle soit, je sais qu'inconsciemment, il y a la satisfaction de m'être dit, ça, c'est moi qui ai fait ça, et je sais exactement tous les apports nutritifs que j'ai qui vont me faire du bien. Donc, c'est voilà. Et pour moi, dans la céramique, il y a exactement pareil. On a lancé nos cours de céramique il y a un peu plus de 2 mois, qui marchent hyper bien. On a 2 formats. C'est que des cours du soir de 19h à 21h30. Et on a un format soit juste illustration où les gens viennent dessiner sur nos pièces. Et on leur cuit, etc. Et après, il y a un autre format qui est un cours de modelage et d'illustration. Il faut s'engager une semaine sur l'autre. Où les filles peuvent venir fabriquer leurs propres pièces. Et la semaine d'après, elles viennent la décorer.
D'accord.
Donc c'est un format qui marche très bien. On vous accueille avec un petit verre de vin. On fait un petit cocktail Healthy with a Dirty Twist, qui est vraiment l'autre format qu'on a développé. Donc on a vraiment voulu rassembler tout notre univers là, quand les clientes viennent. C'est des cours de 6 personnes uniquement. On a voulu garder ça très premium. Donc, les places partent vite, comme c'est des tout petits cours. Et c'est un format qui marche très bien, parce que c'est en vrai trop agréable. Et puis, les filles, quand elles sortent de là, elles ont vraiment passé un moment hyper agréable, quoi.
Si on parle de communication un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui justement, pour le coup, n'ont pas autant de clients qu'ils le souhaiteraient, toi, j'ai l'impression que ça a toujours été extrêmement naturel de trouver des clients, de communiquer.
Alors oui et non. il faut vraiment sortir de ce truc de tout est facile pour les autres moi je galère. En fait, c'est tout le temps dur, je pense, pour tout le monde, pour toutes les marques. Après, on voit l'obstacle de manière différente et on le vit de manière différente. Moi, c'est pas un truc qui me flagelle où tout d'un coup je suis paralysée, je sais plus quoi faire. Mais non, quand je dis, on a toujours eu des clients, mais à un tout petit niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai une grosse ambition pour la marque. C'est-à-dire que c'est du travail, mais à bras le corps tous les jours, à la sueur de notre front. Et il y a tellement de trucs qu'on foire, des lancements qu'on n'a pas. Mais voilà, mais en tout cas, on se pose les questions de pourquoi ça marche pas. Après, aussi, les gens qui pensent que quand on a petits milliers de followers sur Instagram, que la marque cartonne. Mais pas du tout. Il faudrait regarder, et que tout le monde, je crois, a à peu près accès à ça. au taux de conversion sur les sites, etc. C'est du délire. On est sur des 1%, des 0,8, des quand ça cartonne, 1 point. Enfin, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un tel fossé entre les générations. C'est ces générations-là qui ont grandi avec les réseaux sociaux et Instagram qui pensent que...
Si t'as 40 000 followers, t'es milliardaire.
Mais pas du tout. Et puis chacun met son succès à l'échelle où il a envie de le mettre. Mais je travaille 12 heures par jour. Je suis un coup en production, un coup au bureau, etc. En fait, remettez les... Après, oui, je pars en vacances et oui... ma vie est agréable, mais c'est pas enfin je me tue à la tâche, quoi. Je suis debout tous les matins à 5h30, je fais une heure de sport tous les matins pour juste me mettre le cerveau sainement en place pour la journée. Je travaille des heures, mais voilà, ça ne s'arrête jamais. Mais en fait, chaque chose a un prix, quoi. Donc arrêtez de penser que les comptes Instagram, etc., c'est le succès, c'est une très jolie vitrine, mais ça n'est rien. Un compte Instagram qui a 100 000 followers, pensez pas qu'il...
Et inversement.
Et inversement, il y a exactement... moi, je sais que mon compte perso, où j'ai, je sais pas, même pas 8 000 followers... crée beaucoup plus d'engagement que mon compte professionnel.
Après, et justement, moi, j'ai l'impression que... Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que tu te mets au centre un petit peu de ta marque avec justement ce hashtag « Elfie with the Dirtiest Twist », on te voit. Est-ce que tu penses que justement, c'est cette carte qui attire les clients, toi, aujourd'hui?
Ah, clairement.
Qu'est-ce que vous avez justement mesuré de ce qui va convertir plus les followers en clients?
Alors, tout dépend déjà des marques qui sont créées. Moi, j'ai une marque qui fait vraiment, enfin, comme ma sœur avec Hemstone, où c'est, ouais. C'est pas une marque séparée de notre vie. Moi, la marque, c'est ma vie. Clairement, moi, j'ai toujours adoré cuisiner. On a toujours beaucoup cuisiné. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai fait de la vaisselle pour accueillir ce qu'on cuisine. Alix cuisine vachement, son mec cuisine vachement. Enfin, on est vraiment, on a tout un univers qui est très là-dedans. Donc pour moi, ma marque est assez indissociable de moi. Et en fait, oui, clairement aujourd'hui, s'il y a 5 ans de communication hyper produit, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche plus du tout. On a vraiment sur le... Moi, je sais que voilà, toutes les recettes, le Healthy with the Dirty Twist, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le blog culinaire de la marque, qui en fait est fait pour un petit peu démocratiser le fait de cuisiner et que ça peut se passer très bien, très rapidement, très joyeusement avec que des produits frais, qu'il n'y a pas besoin d'être experte. Moi, pareil, j'ai pas fait de cours de cuisine, mais... j'ai un truc très intuitif avec la cuisine, les sazonnements. Et puis, je suis assez... j'aime bien essayer plein de trucs. Moi, j'ai plein d'attirances alimentaires sur plein de choses. Le fait d'avoir vécu aux États-Unis aussi a sans doute beaucoup éveillé ça en moi. Et le Healthy with a Dirty Twist donc, nous permet de donner des recettes qui sont généralement très faciles à faire, très bonnes. Et ça nous permet évidemment de communiquer sur nos produits, de comment présenter, comment utiliser tel plat, etc. Donc c'est un petit peu la partie, c'est vraiment la partie lifestyle de la marque et que j'anime aujourd'hui parce que c'est ce qui marche. Donc on sait qu'on a évidemment beaucoup plus de vues sur une recette healthy with a dirty twist que sur un pack shot produit, enfin pas un pack shot, mais d'ailleurs une photo lifestyle où on a mis 4 heures à shooter le truc pour qu'il y ait la bonne lumière, on va avoir 3 likes. Alors, enfin, je plaisante, mais
je
sur la recette,
bien.
On va en avoir beaucoup plus. D'ailleurs, on a souvent plus de likes sur les teasers des recettes, où c'est un peu le teaser de la recette.
On veut du vrai.
Exactement. Donc voilà, il y a ça, mais après, moi, je suis très à l'aise dans les deux formats. Et puis, j'ai vraiment ça, moi, tout l'aspect cuisine. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de ma personne. Donc, je pense que ça aurait été difficile pour moi de ne pas développer ça. Et là, on est en train de développer un nouveau format, Healthy with a Dirty Twist, dont je suis extrêmement excitée. Dont le premier épisode va sortir en septembre. Le deuxième en octobre. C'est un format mensuel. Et je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise, mais on a.
Ce sera sur Insta.
Ça sera sur Insta et voilà, on a envie de faire évoluer le format avec plein de gens autour qu'on aime et avec qui on a envie de mélanger nos univers, nos goûts, etc. Et donc voilà, ça va être super fun. Donc voilà, et en fait, ce Healthy with a Dirty Twist, c'est aussi, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la marque par ce blog culinaire. Parce qu'en fait, on a juste envie qu'il soit fun, sympa, esthétique.
Ah, moi, je vous ai connu comme ça, par un Reels qui est remonté.
Ouais. Et en fait, et voilà, il y a beaucoup des clientes qui nous disent « Ah, mais c'est parce que je vous suivais, j'ai vu vos recettes, etc.
Ouais. »
Donc, c'est très bien.
Si on parle un petit peu d'argent, le sujet qui fâche peut-être.
Non, alors pas du tout. Moi, j'ai passé 12 ans aux États-Unis, donc je suis
très ouverte par rapport à ça. Aujourd'hui, au bout de combien de temps, déjà tu as pu te rémunérer selon ton ambition. Et aujourd'hui, quelle est ta vision en fait de l'argent par rapport à ton entreprise ?
Alors c'est une vaste question. Alors déjà pour moi le nerf de la guerre, et je pense que j'étais très influencée par ma sœur qui a commencé Hemstone bien avant que j'ai commencé la vaisselle, c'est que je crois que je n'ai jamais pu concevoir d'avoir une boîte qui n'est pas rentable. Déjà parce que je suis autofinancée, donc quand on est autofinancée et qu'à un moment on n'est pas rentable, il y a un moment où on ne peut plus payer, ouais, etc. Donc ça a toujours été ma bête noire, et du coup j'ai un œil très précis sur la compta de la boîte puisque c'est moi qui la gère. Et en fait, je pense que clairement tous les changements qu'on a fait, que ce soit d'arrêter le wholesale, alors que le wholesale en vrai marchait hyper bien, on a ouvert beaucoup de points de vente très rapidement. Je dis toujours qu'on réfléchit mieux et qu'on est plus créatif dans des moments où
on a la pression.
Les taux financiers se resserrent.
Tellement.
Et en vrai, j'ai un truc assez masochiste avec ça, c'est que j'adore quand on est dans des périodes où en fait, je sais que c'est des moments, des cycles où ça veut dire qu'il faut qu'on se renouvelle.
D'accord.
Donc en fait, quand le site il marche hyper bien, en fait quand ça marche bien, tu te poses pas beaucoup de questions.
Ouais.
C'est-à-dire que tu dis, bon, ça roule, vas-y, on fait le poste comme ça, il roule, on vend derrière, etc. Donc, tu as tendance un petit peu à te reposer sur tes acquis, alors que dès que ça se resserre un peu, t'es là, mais en fait, et moi j'adore cet exercice-là. J'ai tellement vu Alix faire ça avec Hemstone, où tout d'un coup, j'ai l'impression d'être comme sur un court de tennis, en appui, en attendant que la balle arrive. Tu sais pas si elle arrive à droite, à gauche, mais en tout cas, je suis tellement en appui que hyper réactif. Et du coup, donc ça a toujours été ma manière de gérer mon business, ce qui fait que je me laisse pas du tout enliser par des problèmes financiers. Pour moi, c'est l'enfer de pas pouvoir payer quelqu'un, de pas pouvoir, qui m'est jamais arrivé, parce que j'ai toujours payé mes salaires en temps et en heure, etc.
Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe ?
Alors là, on est sur un gros roulement d'équipe. Normalement, on est 8, là, on est 6. On a plein de choses qu'on est en train de revoir. Et en fait, on arrive dans une période là qui est l'été, où en fait, tous les nouveaux arrivent à partir du mois de septembre.
D'accord.
On est fermé au mois d'août, etc. Ouais. Et là, on sait qu'on a tellement de stock aujourd'hui qu'on peut largement naviguer pendant 3 ou 4 mois sans... mais pour répondre à ta question, du coup, comme j'ai toujours en tête le côté vraiment business de la boîte et la rentabilité, j'ai l'impression que je peux vraiment être hyper agile en me disant, OK, là, on n'a pas besoin de ça, donc on va couper ça, là, on prend ça, etc. Après, donc nous, on est en plein développement, donc on a, je crois, fait plus 41% cette année de chiffre d'affaires, donc on est très content. Mais à côté de ça, on a aussi des frais qui se développent parce qu'on est dans un endroit, on a quand même un loyer assez conséquent, toute l'équipe, les URSSAF, les assurances, etc. Donc la boîte est rentable, mais on n'est pas non plus avec. On dit on peut ouvrir une deuxième boutique comme ça demain. Mais on est aussi à un moment où moi j'ai une vraie envie de développement de la boîte, et en fait je sais qu'on a un concept qui fonctionne, qui est rentable depuis le début, malgré toutes les hauts et les bas par lesquels on est passé. Et en fait moi je voudrais aujourd'hui développer ce concept, c'est-à-dire je voudrais ouvrir ça à New York, à Los Angeles, une boutique en Asie. Parce qu'en vrai pour moi la vraie valeur ajoutée de la marque, c'est du fait main à Paris, c'est d'avoir une marque très française, très luxe. Et en vrai, ce fait main à Paris, il est très valorisé à l'étranger.
Moi qui ai vécu beaucoup à l'étranger, bien sûr, évidemment, je le vois tout à fait.
Et du coup, parce que je sais exactement maintenant le coût d'ouverture d'une boutique comme ça, comment est-ce qu'il faut organiser la production, etc. Et je voudrais que... j'adore l'idée, en fait, que chaque boutique est en autonomie de production pour le pays ou la ville dans laquelle il est. C'est-à-dire que d'avoir une boutique à New York qui produise vraiment la production à New York, qu'on pourrait d'ailleurs mettre un petit peu en forme à New York pour que ça soit plus... qu'il y ait une vague un peu plus new-yorkaise, etc. Mais se dire, cette boutique, elle fournit les États-Unis. La boutique française s'occupe de ici, de l'Europe, etc. Et donc c'est vraiment ce que j'ai en tête là pour le développement de la marque.
Au quotidien, comment tu fais tes choix ?
Très instinctivement, on va dire. Et si je doute, c'est que je sais que j'ai besoin d'un petit peu de temps.
Ouais.
Donc de temps en temps, où j'ai l'impression qu'il faut répondre au quart de seconde, je me dis en fait, tu sais quoi, il va rien se passer jusqu'à demain. Donc la nuit porte conseil, comme on dit. Moi, elle me porte beaucoup conseil la nuit. Du coup, tu y verras plus clair demain. Mais d'une manière assez intuitive et... je me remets beaucoup en question, mais j'ai pas de doute existentiel en fait. Donc je me fais assez confiance en termes d'intuition. je sais que je suis pas totalement idiote, donc enfin je me fais confiance en fait dans mes choix. Après j'ai aussi aucun problème à poser des questions et à demander de l'aide.
Ouais.
Donc si jamais j'ai un truc où je sais pas sur quel pied danser, je vais facilement prendre mon téléphone, appeler une copine où je sais qu'elle va être assez avoir suffisamment de connaissances sur ce domaine-là.
D'accord.
J'appelle beaucoup, on se parle beaucoup évidemment avec, avec Alix, qui est quand même une sacrée businesswoman, donc qui a toujours de bons conseils. Donc ça se passe généralement assez naturellement. En vrai, on est hyper entouré, quoi. On a, on est très entouré de nos familles proches, nos maris qui sont aussi, qui ont beaucoup voyagé, qui ont leur boîte, etc. On a nos groupes d'amis très proches. On est aussi très proche de nos parents. Enfin, donc,
D'accord.
J'ai l'impression qu'on est très entouré, donc même si je suis seule dans ma boîte, je me sens pas forcément seule.
Ouais. Aujourd'hui, tu as deux enfants, dont une qui est ici.
Ouais.
Comment tu t'organises? Quel est ton équilibre?
Alors l'équilibre, pareil. franchement, ça a été hyper dur. Quand on venait de lancer 3Seven, je suis tombée enceinte, donc. J'ai accouché au mois de juillet, au mois de début septembre, on avait le salon de maison et objets. Moi, j'ai allaité mes deux enfants pendant longtemps. Donc, j'ai fait toute la préparation du salon de maison et objets. Je dormais 2 heures par nuit, j'avais le salon, j'allaitais, il fallait que j'aille dans les toilettes. La fille des toilettes pensait que je me droguais.
Ah ouais.
Donc, j'ai fini par lui sortir tout mon petit matos pour lui dire que non. C'était mes petites bouteilles d'allaitement. Alors l'équilibre honnêtement c'est dur et c'est un travail de tous les jours parce que de temps en temps j'y arrive et puis de temps en temps j'ai pas le choix et mais pour moi l'important c'est de vouloir le faire en fait. Donc on est assez équilibré avec mon mari dans le sens où, lui il voyage beaucoup déjà donc il y a beaucoup de fois où je suis seule avec les enfants.
Alors,
aujourd'hui les enfants ils ont grandi donc c'est plus facile.
Ouais.
Mais quand je venais d'avoir Jack, que Jonas partait pendant 2 semaines entre l'Italie, l'Espagne et je sais pas quoi, et que je me retrouvais avec les deux enfants, dont un nouveau-né, ouais. Un nouveau-né, un chien de 60 kilos qui est comme un être humain et qui en plus de ça était là avant les enfants, donc est clairement le troisième enfant de la maison, voire le premier d'ailleurs de temps en temps. Non, franchement, ça a été hyper dur, ça a été hyper fatigant. Et je me suis sentie très isolée dans les premières années de 3Seven parce que je sentais que j'étais avec... une équipe de filles à l'atelier qui était très jeune, qui du coup ne comprenait, enfin il n'y avait pas du tout de tolérance où j'ai senti qu'elles étaient, il fallait que moi je sois que je pense à tout, sauf que quand on est chef d'entreprise on pense aux grandes lignes et puis souvent on dit que le diable se cache dans les détails. Et donc ça m'a beaucoup coûté parce que du coup je sentais que j'avais pas le droit d'être fatiguée et que j'avais surtout pas le droit à l'erreur alors que concrètement je marchais avec un demi cerveau qui dormait 2 heures par nuit. Donc ça a été dur, mais je me suis aussi toujours dit que ces périodes très fatigantes, déjà il fallait en profiter parce que les enfants grandissaient, qu'on a, enfin pour ma part, beaucoup de chance d'avoir 2 enfants en bonne santé qui sont nés parfaits à mes yeux. Donc du coup j'ai quand même toujours eu ça au fond de moi, que c'était difficile, mais que c'était un tenté.
Ouais.
C'est quelques années difficiles. C'est ça. Et quand ces années passent, on va sans doute les regretter.
Je suis rassurée de voir que c'est moins difficile.
Non, mais c'est difficile pour tout le monde. Pareil, les nanas qui disent « Ah non, moi je gère, machin ». Moi, j'ai l'impression d'avoir très bien géré. J'ai pas du tout de baby blue. J'ai pas du tout... Muse à New York, elle était pendant 3 ans à New York. On l'a trimballée partout avec nous.
Ouais.
Enfin, j'ai trouvé que c'était très facile et en même temps que c'était épuisant. On dort pas, on a plus de temps pour soi. Je trouve que le corps de la femme est vraiment mis à mal, encore plus après les grossesses. Quand on a tout le temps les enfants sur le dos, la tétine qui tombe, on se baisse avec le sac, le machin, la couche qu'il faut changer. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper fatigant. Et du coup, j'ai vraiment essayé. Je dis bien j'ai essayé, parce que de temps en temps, j'y arrivais très bien. Et de temps en temps, j'y arrivais pas. À me dire qu'il fallait en profiter d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'ai réussi à quand même trouver, c'est pour ça que j'aime bien parfois les insomnies, une vraie zone incroyable de confort dans les insomnies ou dans les réveils nocturnes. Plutôt que de subir le fait que j'allaite mes enfants qui vont me réveiller, que mon mari va pas pouvoir, enfin en même temps qui était quand même trop sympa, parce que du coup je m'allumais une petite bougie, enfin je faisais vraiment ce moment, un moment agréable, donc je m'allumais une petite bougie, Jonas qui est assez incroyable, allait me faire une petite verveine qui me ramenait en plein hiver, un truc douillet. Et je me disais, je sais pas, je vais regarder un petit documentaire, un truc, etc.
Oui.
Et plutôt que subir...
Pas perdre ce temps, entre guillemets.
plutôt que de subir tous ces moments-là, ouais, d'essayer de tirer du positif dedans et du confort. En fait, je me disais, part, d'être dans ton lit bien au chaud quand il fait 0 degré dehors et qu'il pleut, et ben, j'arrive à me le remonter au cerveau en me disant que c'est agréable, en fait.
Ouais.
Et voilà, après un autre truc, nous, dans lequel on n'est jamais, parce qu'on n'est pas comme ça avec Jonas, mais on n'est pas du tout dans la logistique, et on a toujours refusé de tomber dans la logistique de... il faut que tout soit comme ça, etc. Nous, on est hyper souple. Alors, on a après les enfants qui dorment bien. Mais en fait, chacun module comme il peut. Et je me dis toujours qu'en tant que mère, c'est pour ça que moi, je suis très indulgente avec tous les mères, comment on élève tous nos enfants. C'est que je sais qu'on fait du mieux qu'on peut au moment où on le fait.
Mmh.
Et que peut-être qu'avec du recul, on va se dire, putain, mais alors ça, j'ai foiré. Et en fait, moi, ça, j'ai toujours refusé de culpabiliser sur quelque chose. Je sais que j'aime mes enfants plus que n'importe qui d'autre sur Terre. Et que si maman, à un moment, je me suis énervée sur un truc, en fait, je me tabasse pas derrière en me disant ouais, oh, mais t'es une mauvaise mère, machin, etc. Je dis, non, en fait, je suis humaine aussi. J'ai aussi mes émotions, mes fatigues, mes doutes. Et qu'en fait, au moment où tout ça s'est passé, eh ben, j'ai peut-être parlé un peu fort, mais en vrai, j'ai fait du mieux que j'ai pu au moment, avec ce qui m'était donné à ce moment-là. Et du coup, ça apaise beaucoup, je trouve.
Ouais.
Donc voilà, et l'équilibre aujourd'hui, il est ce qu'il est, où on s'occupe beaucoup de nos enfants. Moi, je rentre tous les soirs pour leur préparer le dîner. J'ai beaucoup culpabilisé de quitter le bureau à 17h ou 18h. En même temps, moi, je suis debout depuis 5h30 du matin. Je travaille beaucoup plus que... enfin, énormément. Et du coup, aujourd'hui, je pars gaiement à 5h30 ou à 6h pour me dire je vais me faire un yoga où je rentre m'occuper de mes enfants. Parce qu'en fait, je trouve qu'il faut tellement valoriser ça. Et en fait, en tant que femme, on est vraiment dans cette époque, enfin moi, quand j'ai grandi, où c'était terrible de faire une sieste. Alors qu'en fait, aujourd'hui, la sieste, mais j'ai envie de leur dire, en fait, à mes enfants, je leur dis, jamais t'es fatiguée, va t'allonger une demi-heure. C'est ouais, que ton corps te lance un signal. Il a besoin de se régénérer ouais, pendant quelques minutes. Donc, donne ça. Alors qu'en fait, on a grandi tellement pas en phase avec tous les signaux que nos corps nous lançaient qu'en fait... Et ben aujourd'hui, j'adore dire, en fait, ben vous savez quoi, je me lève à telle heure parce que je vais faire du sport. Et que oui, ben ça prend du temps de cuisiner, mais en fait, pour moi, il n'y a rien de plus important que ce que je mange et comment je me sens. Et du coup, ben tout ça, ça prend un peu de temps, donc je vais faire la place dans mon quotidien pour le faire. Alors, je le fais à 5h30 du matin parce que je n'ai pas le temps à un autre moment. Mais chacun trouve son équilibre là où il le trouve. Et en fait, j'arrête de m'excuser, je suis désolée, je m'en vais. En fait, non, les gars, j'ai 2 enfants à la maison. Et en fait, ils ont 6 ans et 9 ans, je ne sais pas quel jour on est, le 29 juin, une fois dans leur vie. Et donc, du coup, excusez-moi, mais je vais passer du temps avec eux, si carrément, ça ne vous embête pas. Et je vais me cuisiner un dîner de ma boule, et, enfin, très simple, mais très bon. Et puis potentiellement, je vais me faire un verre de vin avec et merci, au revoir.
Et c'est OK.
Mais en fait, super. C'est vraiment c'est la pression sociale, je trouve, qui est dite très difficile en tant que femme de se dire on ne peut pas s'accorder ça. Alors qu'en vrai, c'est tellement valorisant. Et je sais que mon mari, il adore et qu'il va, par exemple, le week-end, je vais lui dire je suis désolée, je ne suis pas là ce matin parce que je vais faire ça et ça avec une copine. Et il me va toujours me dire « go for it
ouais. ».
Parce qu'il sait que c'est tellement bon pour moi. Il adore que je sois sportive. Il adore que j'aime manger et bien manger. Et en fait, c'est à nous en fait, d'imposer un peu notre rythme. Quoi. Et voilà. Et après, il y a ce côté où, en fait, de souffrance du surmenage dans lequel on est toutes, je pense, quels que soient nos métiers et ce qu'on fait. Et que je trouve que c'est vraiment à nous de mettre notre pied dans la porte en disant en fait « eh oh ».
Et justement, j'ai 2 questions avant de passer aux petites questions de fin et te laisser travailler.
Ouais.
Justement, j'allais te parler, on connaît tous des aléas physiques, psychologiques dans nos vies professionnelles et personnelles. Toi, est-ce que justement, tu te souviens psychologiquement d'un moment où, pas burn-out, mais où tu t'es senti un petit peu en danger et la façon dont justement tu as pu t'en relever ?
Eh ben, j'ai envie de te répondre tous les jours de ma vie,
ouais,
mais vraiment, tous les jours encore là, parce que je trouve qu'on travaille beaucoup trop, qu'on est aujourd'hui censé être bon dans tous les domaines. Donc moi, il faut que je fasse ma com, les photos, les trucs, etc. Donc je suis tout le temps, mais je le dis en rigolant, mais je l'ai vraiment, je dis je suis toujours mais à ça du burn-out.
Ouais.
Mais me connaissant maintenant, comme j'ai 40 ans et que j'ai appris à me connaître, je sais ce qui me fait du bien. Et ce qui me fait du bien, c'est de faire du sport et de prendre soin de moi. Donc, clairement, je me réveille pas de la même manière ou je ne finis pas ma journée de la même manière si j'ai fait du sport dans la journée. Donc, c'est pas que je suis une frappadingue de sport dans le sens où je suis une frappadingue du corps, du machin, etc. C'est juste que pour moi, c'est ma meilleure arme dans la vie pour rester sereine et saine. Je suis quelqu'un d'hyper calme et j'ai une humeur très constante. J'ai pas du tout, moi, de pic de colère, de joie, d'agacement. Je suis vraiment hyper constante. Et je pense que j'ai une très bonne capacité à gérer mon stress. Mais parce que quand je vais courir le matin 10 km, en fait, ça m'organise le cerveau et les idées. Et tout d'un coup, je fais complètement... je détache tout et je range tout dans des boîtes, en fait. Donc, en fait, ce qui, au milieu de la nuit, m'a paru être un stress phénoménal qui a fait que je ne me suis pas rendormie, le matin, quand je vais courir, eh ben, en fait, je prends de la hauteur et je me dis, mais attends, ce truc-là, en fait, c'est mais anecdotique. Pourquoi est-ce que tu te le... Et du coup, ça me compartimente tout. Donc, je dis toujours, et c'est marrant ce qu'on dit vachement ça avec Alix, qu'on n'est pas la même personne quand on rentre en cours de yoga ou qu'on en ressort, et pareil quand on court. C'est qu'en fait, j'ai l'impression, clairement, quand je sors d'un cours de yoga ou que j'ai couru, que... Je dirais pas que je suis plus smart, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de sang-froid. Et en fait, ça me fait... Je peux arriver, tu vois, je suis haute comme ça. Quand j'arrive, je suis tendue, stressée de ma journée. Et ben, j'ai pris l'heure pour aller courir. Tout est redescendu. Et du coup, je peux... Mais si, je suis tous les jours à deux doigts d'un burn-out. Et je pense qu'on l'est toutes parce qu'on a des vies infernales, quoi. Puis ouais. On est dans une période de vie qui est très noire, qui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup à l'horizon de... Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'obscurité. Enfin, c'est difficile de rester positif. Et c'est pour ça que, du coup, bah, ça me ramène à un truc très terre à terre. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est moi et ma famille.
Ouais.
Et qu'en fait, il y a plein de choses. Je pense que c'est compliqué pour les marques et pour tout le monde depuis le mois de je sais pas. Alors, ouais, les marques ont des soldes le mois de janvier.
Mais... Covid, post-Covid.
Oui, puis là, on a quand même... Il y a eu l'Ukraine, ouais, tous les trucs, etc. Et en fait... C'est soit en fait je m'asphyxie et j'arrête et puis clairement je pars en burn-out, soit en fait j'essaie de me dire bon bah comment on
tu
est dans une
des
zone...
moments qui te
ouais puis dans un moment aussi où on sait qu'il y a plein de choses en fait qu'on peut pas gérer les ventes, les trafics sur les sites, etc. le digital qui est devenu hyper difficile. En fait, c'est soit je m'asphyxie, soit en fait je réfléchis concrètement à comment garder ça, passer cette période de crise en bombant le torse, etc. En même temps, je dis ça, on a quand même fait une très belle croissance cette année, mais en fait, je trouve qu'il faut prendre du recul et arrêter de... Voilà. Et moi, j'ai un autre truc, ça, qui me rend dingue, dont je voudrais passer un message national. En fait, on a tous choisi nos vies, plus ou moins.
Ouais.
Et qu'en fait, pour moi, on est... il faut qu'on apprenne à se gérer en tant qu'humain et en tant qu'unité. C'est-à-dire que pour moi, il est impensable que... Enfin, moi, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi de travailler 12 heures par jour. J'ai choisi de faire de l'artisanat à Paris. Enfin, tu vois, j'aurais pu faire un truc plus simple. Mais en fait, je ne peux pas répercuter mon stress, mon manque de sommeil, des trucs comme ça, etc., aux gens qui m'entourent.
Oui.
Donc en fait, quand j'arrive au bureau, je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui va dire « Ah non, mais qu'il y a des sautes d'humeur, machin, etc. » Et du coup, j'attends la même chose des gens.
Oui.
Et pareil, je trouve qu'en tant qu'être humain, comme on devrait être tous quand même vachement plus gentils dans les comportements, moi, les mails des nanas que je reçois qui ne disent pas bonjour parce qu'elles sont stressées, qu'elles envoient un espèce de message hyper sec. Mais en fait, à quel moment tu penses que parce que toi, tu ne sais pas gérer ton stress, tu es censé venir impacter ma vie, en fait.
Non, c'est vrai.
Et ça, j'ai un truc qui est radical de blocage total de ce genre d'énergie, en fait. C'est en fait, je me gère moi, je gère mes enfants, mon équipe, est-ce que je peux gérer ? Et en fait, de devoir me prendre un espèce de savon ou un truc pas agréable parce que toi... tu vis la même chose que moi, sauf que tu sais pas le gérer.
Ouais.
En fait, j'en veux pas de ton stress, j'en veux pas de ton manque de sommeil, de tes enfants qui t'ont fait chier ce matin. Moi, c'est pareil, en fait. Mais j'arrive pas en disant, putain, tout le monde m'a fait chier ce matin. Oui. Je suis stressée. Voilà. Et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on l'enseigne vachement à nos enfants. Moi, je suis au boulot là-dessus avec mes enfants.
Ouais.
Ma fille, ça se passe très bien. Mon fils, il y a un peu plus de boulot sur le sujet, mais... Non, parce que je trouve qu'en fait, c'est nocif, en fait.
Ouais,
les gens dans la rue qui pètent un plomb de bon matin parce que je sais pas, une nana à vélo a pas mis son pied dedans, je sais pas quoi, et qui tout d'un coup mais insulte la nana.
Ouais, non, c'est.
Mais parce qu'on dit toujours, il y a des effets vertueux et.
Bah, bien
de
sûr.
Dire, en fait, de
c'est ce que je disais de toi tout à l'heure, ouais. C'est que je pense que voilà, ton énergie positive fait qu'il t'arrive des choses positives et c'est ce que tu renvoies qui fait si t'es tout le temps dans une énergie négative, il t'arrivera que
moi,
tu dégages.
Moi, c'est évident. Ouais, si tu te dis, donc, en fait, je vais passer une journée de merde, c'est toujours difficile. Et parfois, t'as des journées de merde, mais en fait, il faut aussi parfois les accepter.
Exactement,
demain, c'est,
c'est important ce que tu dis et merci pour ça.
Bah, merci.
J'ai une dernière question avant les petites questions de fin de l'interview. Qu'est-ce que tu dirais à la Caroline qui commence Free Seven Paris?
Je lui dirais résilience, travail. Et peut-être parce que moi je peux être très sensible à ça. C'est de ne pas te laisser influencer par des gens qui potentiellement vont un petit peu t'écraser un peu, te mettre mal à l'aise. En fait, je me dis toujours que les gens qui sont bien dans leur pompe, ils n'ont pas besoin de venir dévaloriser des gens ou les rabaisser, etc. Mais ça, je l'ai compris que plus tard. Je me dis, la personne qui a besoin de marcher un peu sur la tête de quelqu'un, c'est que elle se sent pas très bien et qu'elle pense qu'en te marchant sur la tête, ça va lui permettre de s'élever, alors qu'en vrai, il n'y a qu'un effet rabaissant pour cette personne-là. Mais je pense que je me suis un petit peu, quand j'étais plus jeune, où ça m'a vachement intimidée. Alors que je reste persuadée que des gens qui sont bien dans leur pompe, ils valorisent les autres et que le succès de l'un n'impacte pas toi, ton succès, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, je dirais peut-être de moins se laisser. Je suis hyper sensible, moi, aux énergies, aux gens, etc. Et ça, ouais, ça m'a un petit peu, je pense, travaillé les moins maintenant. C'est l'avantage de la quarantaine. Mais ça m'a toujours un petit peu tiraillé et impressionné.
On va finir par des petites questions de fin. Tes inspirations?
Alors, mes inspirations sont. Très, je sais pas comment dire, dans le quotidien en fait. Je suis très attirée par les couleurs. Ce qui est marrant, c'est que j'ai une vaisselle noire et blanche, mais en vrai, je suis très attirée par la couleur. Franchement, tout ce qui m'entoure, je peux prendre une photo d'un bout de trottoir parce qu'il y a eu un truc de travaux avec un truc de bombe de couleur, la fluo, quand ils définissent les trucs électriques là, je sais pas comment ça s'appelle. Avec le goudron marron gris, je peux trouver ça canon, je peux prendre une photo de ça. Je peux prendre un petit peu de tout. J'aime bien ce qui n'est pas compliqué en fait. C'est-à-dire que par exemple pour la vaisselle, je voulais vraiment une forme. Par exemple, il y a pas de anse sur nos produits parce que je trouvais que ça faisait trop d'informations. Il n'y a pas non plus d'espèce de moulure. C'est un produit qui, je le voulais très lisse, je le voulais très aérien, très, très net. J'aime bien le côté assez carré.
Est-ce que tu crois à la chance?
Je crois à la chance, mais je crois qu'on la provoque. Donc je crois aux alignements des planètes. Je crois que quand il y a des zones de difficulté, que de temps en temps, il faut juste, c'est une sale période et il faut parfois attendre que ça passe. Et je ne suis pas du tout défaitiste, bien au contraire. Mais je crois que il y a un moment, un aliment des planètes qui fait que boum boum boum, même une création d'un produit, un truc qui voilà, ça s'est fait hyper rapidement, mais ça peut se passer en 3 jours. Et de temps en temps sur un autre sujet, mais c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que de temps en temps quand c'est fait dans la difficulté, pour moi c'est que bah si ça joue aussi, c'est que c'est pas un bon aliment de planète. Donc si j'y crois beaucoup à ça. Ouais.
Tes citations préférées?
Alors, j'en ai une de mon père que je trouve mais incroyable, et je pense qu'il nous a vraiment, qui a été en nous, qui est en nous tous les jours de notre vie avec Alix, qui nous a dit quand on était pré-ado, j'étais folle amoureuse d'un mec qui était, je pense qu'aujourd'hui je pourrais dire que c'était un pervers narcissique, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de mots, mais vraiment qui me faisait, c'était toujours qu'il jouait le chaud, le froid, etc. Je devais avoir 15-16 ans, il avait 3 ans de plus que moi, etc. C'était un peu le beau gosse du... Et vraiment, qui m'en avait fait voir de toutes les couleurs. Et je pense que mon père a vu que je pleurais tout le temps. Vraiment, j'étais malheureuse. J'étais vraiment très triste. Et donc, je pense que mon père a vu ça et s'est dit, il faut que je leur dise quelque chose pour qu'elle ne soit pas ce genre de nana à se morfondre pour un mec. Et donc, il nous a assis sur le canapé et qui nous a dit, les filles, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que dans la vie, vous recevez l'amour que vous pensez mériter. Cette phrase-là, veut dire qu'en fait, si jamais toi, tu ne t'estimes pas suffisamment et que tu penses mériter le peu d'amour que ce mec te donne, le problème n'est pas que ce mec est un connard. Le problème, c'est que toi, tu ne te valorises pas suffisamment pour te dire que ça, ça ne t'intéresse pas parce que tu mérites beaucoup plus que ça.
Ouais.
Il nous a dit que ça va marcher dans toutes les sphères de votre vie, c'est-à-dire qu'au bureau, si vous vous faites mal de traiter, en fait, c'est à toi d'imposer en fait ton niveau d'exigence. Alors, pas quand t'es une petite ingrate prétentieuse, mais je veux dire, si tu t'es attirée par ce mec-là ou par ta copine, si t'as que des copines qui te font des sales coups les unes après les autres, le problème, c'est pas que t'as pas de chance d'être avec des copines comme ça, le problème vient de toi, c'est pourquoi est-ce que toi, t'es attirée par des nanas qui t'élèvent pas plus que ça, en fait. Donc ça, c'est la situation ma préférée, je crois. J'en ai plein d'autres, mais celle-là, je trouve que c'est la plus
elle est,
plus
elle
fort,
est super et je ne l'ai jamais entendue, donc c'est très bien.
Je trouve qu'elle est vraiment de mon père et qu'on a et je trouve qu'elle te suit, quel que soit ton âge, sur plein de trucs. Moi, il y a plein de fois où je me retrouve dans des situations, etc. Et je suis là, en fait, tu sais quoi, mais je ne vais même pas perdre mon souffle à parler sur un niveau comme ça, sur un sujet qui ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, je mérite mieux que ça. Et ça... Non, je trouve que c'est hyper fort. Et je trouve qu'il faudrait vraiment le dire à nos enfants.
Ouais, complètement.
Filles et garçons. Hein.
Totalement. Tes livres préférés?
Je lis pas du tout, plus du tout, depuis que j'ai accouché. Mais vraiment plus du tout. Je pense que je n'ai pas ouvert un livre depuis Muse à 9 ans. Si j'ai dû en ouvrir un ou deux. Mais
Ou tes podcasts préférés, une ressource que tu as envie de partager?
Alors,
un
j'écoute
film,
énormément
une série.
De podcasts parce que j'ai beaucoup de. C'est ça, j'ai remplacé, je crois, les livres par les podcasts. J'adore, moi, la politique. Donc j'écoute plein de podcasts quand je suis en production. Je me mets vraiment dans ma bulle. Et donc il y a beaucoup de podcasts, il y a le podcast du New York Times que je trouve hyper bien, il y a le C'est dans l'air que je trouve toujours hyper intéressant parce que je trouve qu'ils ont toujours des bons invités et que les sujets sont hyper bien déroulés. Voilà, après quand vraiment j'ai le cerveau en bouillie et que du coup j'ai envie de j'adore les transferts. Voilà, il y a Entreprendre dans la mode que j'ai beaucoup écouté, là va savoir pourquoi j'écoute moins en ce moment. Et voilà, mais j'aime beaucoup moi les podcasts politiques.
Politiques, ouais. Les questions que l'on te pose le plus.
Vous êtes vraies jumelles? Oui, beaucoup de questions sur notre relation avec Alice.
Ouais. Mais c'est vrai que vous êtes vraies jumelles. Enfin,
bah écoute, alors
vous ressemblez énormément. Moi, la première fois que je t'ai entendue au téléphone, je me suis dit waouh,
on a la même voix.
C'est fou.
Non, alors, ce qui est marrant, c'est qu'écoute, on a découvert le jour de nos 40 ans qu'on était vraies jumelles. Parce que notre mère nous a toujours dit qu'on était fausses jumelles. Va savoir comment tout ça s'est créé, mais qu'apparemment c'était deux poches et tout. Et en fait, pour le jour de nos 40 ans, mes parents nous ont fait une très jolie boîte à chacune, avec plein de photos de moments de vie d'avant, etc. Et dedans, elle a retrouvé les deux échographies qu'elle a mis dans le fond de la boîte. Et donc, du coup, le jour de notre anniversaire, on ouvre la boîte avec l'échographie. Et on voit écrit « présence de jumelles avec pas de séparation de poche, etc. » et donc, et ben on a pleuré toutes nos larmes, les larmes de notre corps, parce qu'on a toujours trouvé avec Alix, on sait qu'on est très différentes sur plein de sujets. Après, on a vraiment un tronc commun. Mais on a des sensibilités assez différentes, etc. Et en fait, on s'est marré parce qu'on s'est dit « mais ça explique tout ». Pourquoi est-ce qu'on s'aime autant, etc. Parce que quand on est jumelles, on a grandi à deux. Après, on s'est séparés longtemps parce que quand je suis partie aux États-Unis, elle est restée là. Donc, on a été pendant 9 ans séparés. Mais on est vraiment, je pense, un gros pilier l'une pour l'autre. On s'aime bien, quoi.
Et ma dernière question, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie?
Moi je dis toujours par exemple sur les enfants et leur vie, je dis toujours en fait moi j'ai qu'une envie, c'est que mes enfants ils soient bien dans leur pompe, c'est mon seul but dans la vie en fait. C'est savoir exactement ce qui te fait kiffer dans la vie et travailler dur pour préserver ces moments. Donc si jamais t'aimes pas ton boulot parce que tu fais un truc, en fait c'est de savoir qu'est-ce que t'aimes, dans quoi tu penses que tu peux être bon et passer du temps à travailler là-dedans. C'est rare quand j'ai pas envie de travailler, parce qu'en vrai, j'adore ça. Et j'adore la structure du travail, etc. Mais j'ai eu là un moment où j'avais été hyper fatiguée il y a quelques mois. Et pendant ça m'a duré franchement un mois, j'avais plus envie de travailler. Mais vraiment comme si je pouvais pas travailler. Et du coup, je me suis dit, putain, les gens qui aiment pas leur boulot, mais je comprends que ce soit un enfer d'aller travailler le matin. Alors que moi, je me lève le matin à 5h30, je suis en transe de ma journée, parce que je sais que je vais aller mettre mes petits trucs dans mon tableau Excel, qu'on va faire un shooting de machin, etc. Et en fait, j'arrive toujours à trouver de l'excitation dans mon travail parce que je sais que j'aime profondément ce que je fais. Et donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir de vie heureuse si on ne sait pas qui on est et ce qu'on aime faire. Parce qu'en vrai, la vie, à la fin de la journée, ne tient qu'à ça. À faire un bon dîner, faire trois blagues avec une copine, etc., à passer le moment. Et je trouve que moi, depuis pratiquement 8 mois, j'ai une limite Instagram de 30 minutes par jour.
Ouais.
Donc, autant te dire, je suis efficace maintenant. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas, parfois, je dépasse, etc. Mais en tout cas, elle est là. Mais parce qu'en fait, ça crée des tensions. Toutes ces nanas qui ont des comptes avec... Enfin, qui sont vraiment des Instagrammeuses. Moi, c'est pas mon job. Eh bien, je me dis, putain, ça peut pas ne pas créer de tensions dans leur foyer, en fait. D'avoir le mari qui rentre, la meuf qui est toute la journée sur Instagram en train de se prendre en photo avec les enfants comme ça, qui, du coup, doivent chouiner le temps qu'elle... Enfin, on l'a toutes fait, quoi. Et donc, il y a pas de... faut arrêter de croire ça, en fait. La vie heureuse, c'est ça, pour moi, la dérive de notre monde aujourd'hui. C'est que pour moi, la vie heureuse, elle est interne et elle est de toi, avec toi. Ton bonheur, il est très personnel à toi. Mon bonheur, est-ce qui est pour moi, mes moments de bonheur sont les miens. Les tiens peuvent être très différents. Alors qu'en fait, on est dans une société où les gens pensent que tout est extérieur. Il faut envoyer du bonheur, des images de bonheur comme ça. Alors souvent, il y a une telle... un tel gap entre les deux qu'en fait c'est le vide intersidéral, parce que le bonheur en fait il est intérieur.
Ouais.
Point barre. T'as pas besoin de... Et moi c'est terrible parce que je dis ça, moi j'ai une relation très conflictuelle avec Instagram. Moi j'ai effacé mon compte 12 fois.
Ah ouais.
Ah ouais. Là je crois que le compte que j'ai là, je l'ai remis en... j'ai recréé un compte genre en 2021.
D'accord.
Alors, moi j'ai une relation compliquée à Instagram parce que en fait, je trouve ça très dangereux ce qu'on véhicule sur les réseaux, et quelque part, et je suis contre, et quelque part, j'y participe aussi d'une manière ou d'une autre.
Oui.
C'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Et moi, j'ai peur pour la.
Oui,
la
bah oui, pour les enfants, ouais, c'est sûr.
Et du coup, non, c'est pour ça que je trouve que il faut vraiment arrêter. Bon, j'ai l'impression qu'avec les années, les gens comprennent, mais qu'il faut arrêter de prendre tout pour un.
Oui, bah moi,
le bonheur, il est que de ta vie avec toi, point barre.
Ouais,
en fait.
C'est ça, bien sûr.
T'as beau aller montrer ton truc où tu pars en vacances, machin, etc.
Après, il y a aussi beaucoup l'usage Instagram où les gens, ils parlent vrai, ils partagent leurs galères. Ouais. Il y a beaucoup aussi cette...
Oui, ça, c'est sans doute, sans doute très bien. Ouais.
Mais c'est sûr qu'il faut faire la part des choses, et nous, on a le recul nécessaire et pas nos enfants.
Mais
quoi.
Tu vois, je trouve que si on apprenait aux enfants à l'école, avant tout... qu'on leur expliquait qu'en fait, la vie, tu vas tomber 25 fois. Il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions. Il va falloir que tu apprennes à gérer tes frustrations, parce que tous les jours, tu vas avoir une frustration sur quelque chose. Qu'on leur apprenait l'empathie, en disant, en fait, au lieu d'exclure ta copine parce qu'elle a une anomalie ou j'en sais rien, en fait, va lui prendre la main quand elle est toute seule pour l'intégrer au groupe, et qu'on apprenait ça aux enfants. En fait, parce que ça s'apprend, c'est de l'éducation, ça. Et au même titre qu'on apprendrait à, quand c'est pas possible de le faire dans la maison, mais qu'il y aurait des programmes pédagogiques pour apprendre aux enfants à se nourrir. T'imagines, en fait, si t'apprenais aux enfants... faites le projet de l'année, faites pousser des carottes. Regarde le temps que ça prend. En fait, tout d'un coup, la valeur aux choses est très différente. Et du coup, je peux dire que la carotte où tout le monde, les enfants, sont là, ah non, j'aime pas. Attends, la carotte que je viens de faire pousser, mais évidemment que je vais la kiffer. Ouais. Les enfants, ils vont l'adorer.
Ouais.
Et c'est un peu la même démarche dans ce qu'on fait en céramique, parce que c'est tellement délirant le travail qu'il y a pour créer une pièce. En fait, pour nous, l'objet a une valeur incroyable. Au-delà de son prix, c'est qu'en fait, on sait ce qu'il nous a coûté en termes d'équipe, de travail d'équipe, en fait, pour qu'on crée ce produit-là. Et c'est vrai que les clientes qui nous disent c'est fragile, etc., c'est non, en fait, c'est délicat. C'est une pièce d'art presque, parce qu'il y a quand même 3 semaines de fabrication sur la pièce. Et qu'effectivement, c'est une pièce, vous ne la traitez pas comme une tasse Habitat ou Ikea.
Oui, et prendre soin.
C'est comme un pull en cachemire, en fait. Ouais. Et voilà, regardez comment c'est fabriqué. En fait, tu as envie de la bichonner, la tasse. Quand tu te fais un thé, tu as envie que le thé soit canon dedans, parce que tu as envie de te créer un moment autour de ta tasse. Quoi.
Totalement.
Et ça, c'est de reprendre un quart de seconde de bouffée d'air pour se dire, attends, mon café que je vais me faire dégueu, mon assiette que je vais me faire dégueu sur le coin de la table, en fait, non.
Prendre soin.
Je vais prendre le 2 minutes pour me faire une jolie assiette, parce qu'on oublie tout le temps, mais de manger, d'avoir une jolie assiette, ça nourrit l'odorat, les yeux, et c'est le plaisir, en fait. C'est ça, un moment de bonheur, c'est de se dire, c'est un petit moment impalpable, c'est comme te dire, on va se faire un café en terrasse.
Ouais.
Le café lui-même, il n'a pas grand intérêt, mais c'est le temps que tu accordes à ce petit moment pour le remonter en te disant... quand même bien.
Exactement.
Et si tu arrives dans ta journée à accumuler plein de petits moments comme ça, l'effort d'être allée courir le matin, le bonheur de prendre une douche après être allée courir, de se crémer, de machin, etc. En fait, si on arrivait à prendre des fragments de secondes pour se dire, en fait, tous ces petits moments constituent quelque part ton bien-être, et ben nos journées iraient quand même mieux.
Merci voilà. beaucoup, Caroline.
Merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.